Bonjour. Comment ça va bien? Bonjour tout le monde. Bonjour les copains. Merci Mister DT Jungle, merci Krasmazov, merci Lil Nouz, merci Dadao, merci Thibaut, merci Hugo, merci Chipsui, merci Slotty, merci pour vos resubs, vous êtes adorables, merci du fond du cœur. Comment ça va? C'est la rentrée. Alors moi, pas encore tout à fait. On est encore sur une fin de... une étuve de fin d'été. En vrai, je pense que ma grosse rentrée, ça va vraiment être plutôt la semaine prochaine. Ouais, ça va être la semaine prochaine. Avec les annonces et tout. Machin. J'ai des trucs à vous annoncer. Hein. Oh! Po, 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 po. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Moi, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Ça va être le feu. Merci, Azarn. Trop de spoil, on n'en peut plus. Ah non, je spoile pas. Je dis rien. Merci Usagi Show, merci Mister Yugis. Teaser de ouf. Non, en vrai, il y a quand même eu une annonce hier sur Twitter. Quand même. Quand même. Je me fous pas de votre gueule. Backseat à la fête de l'UMA. On en parle ou on en parle? Bon, on n'en parle pas tout à fait parce que j'ai pas encore tout annoncé. Mais. Merci Sioul pour ton resub. Merci hein, pour vos abonnements. En congé maternité, quel est le stream sur une sieste? C'est la classe. Let's go! Let's go! La rentrée va être musclée, la loi immigration de Darmanin. Ah non, mais la rentrée politique, elle est déjà musclée, hein, ça a déjà commencé. Hein. Je veux dire, bon, on va en parler, hein, mais. Prigogine Flight Simulator, moyen. Ségolène Royal, l'union de la gauche, on y va. Nicolas Sarkozy sort un bouquin. Darmanin fait sa rentrée. Gabriel Attal parle de la rentrée. Ah non, mais attendez, vous êtes gâtés, hein. Grande interview de Macron dans Le Point, il faudra qu'on la lise ensemble cette interview. Important. Non, mais attends, plus les universités étaient départies et tout. Non, mais attendez, la semaine prochaine, on va s'éclater. Hein. Moi, je dis semaine prochaine. Hein. Voilà quoi. Non, mais donc, backseat à la fête de l'UMA. En vrai, je suis très 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 content. Je remercie du fond du cœur l'UMA pour ce beau partenariat. On s'est rencontrés plusieurs fois. Ils ont hâte, on a hâte. Ça va être très très cool. C'est quelle heure, Backseat à l'UMA? On va vous l'annoncer. On est encore en train de caler. Alors évidemment, ça va être. C'est difficile parce qu'on s'installe sur un festival qui a déjà lieu, qui a déjà son infrastructure, etc. Donc on peut pas. Voilà. On est en train de caler tout ça. On va revenir vers vous avec des informations, mais on voulait déjà vous donner la date et surtout vous annoncer quand même un partenariat avec l'UMA qui nous fait le plaisir d'avoir un code promo Backseat qui vous permet de venir à la fête de l'UMA pour moins cher si vous prenez le pass 3 jours. 6 euros de réduc avec le code promo Backseat. C'est quand même très très cool. Déjà que la fête de l'UMA est déjà un des festivals les moins chers de l'année. Et ça, l'UMA, ils y tiennent. C'est un festival populaire avec tout ce que ça veut dire, notamment le fait que c'est pas très cher d'aller à l'UMA. Pour un festoche de cette qualité-là et de cette teneur-là, c'est pas très cher. Et ben, c'est encore moins cher avec Backseat. Et j'en suis très heureux. Et je serais très heureux si cette émission Backseat était l'occasion pour des gens comme vous de venir à la fête de l'UMA pour la première fois de votre vie. C'est une belle occasion, je trouve, de découvrir ce festival quand même unique au monde. Hein. Près d'un siècle d'histoire d'une fête comme celle-là, très particulière. Franchement, c'est cool. Hein. Est-ce que ça devrait pas être gratuit pour aller au bout de la démarche? Oh putain, dans un monde merveilleux. Dans un monde merveilleux où tout le monde il est gentil. Où les gens ils bossent gratuitement. Dans le village des Schtroumpfs, où il suffit de demander à Schtroumpf boulanger pour avoir une baguette de pain, si la fête de l'UMA devrait être gratuite. Ouais. Voilà. J'hésitais à venir, mais là tu m'as convaincu. Écoutez, faites ce que vous voulez. Ce sera sur Twitch, hein, c'est une émission Backseat. Vous pouvez rester chez vous et tout machin, mais en vrai, si vous avez l'opportunité de venir, la fête de l'UMA, si vous l'avez jamais faite, c'est l'occasion. C'est un bel événement, c'est intéressant. On n'est pas obligé d'être communiste pour kiffer la fête de l'UMA. Ce n'est pas un événement d'un parti politique, c'est clairement organisé par un journal de gauche. C'est un très grand rassemblement de la gauche, mais c'est aussi une fête populaire, un festival de musique. Voilà. On peut tout à fait faire une fête de l'UMA entière sans jamais entendre parler de politique. Hein. Il y a des gens, ils vont à la fête de l'UMA juste pour faire la teuf. Hein. C'est valable, c'est ok. T'as le droit. Tu peux aussi aller à la fête de l'UMA sans jamais entendre une note de musique. Tu peux aussi. Passer ta journée dans des ateliers, tout ça, machin, à papoter. Tu peux. C'est possible. C'est la fête de l'UMA. Si on sub, tu nous annonces les invités et les chroniqueurs? Bah, je sais pas, essaye de sub, tu verras bien. D'ailleurs, ça a déjà commencé September ou pas? On est le 28 août. Je sais pas, j'ai pas suivi. September, ça a commencé? Faut que je regarde ça. S'ils pouvaient délocaliser ça en province aussi. Mais vas-y là, les gens, putain! Les mecs, ils organisent un putain de festival depuis près d'un siècle et tout, et vous êtes pas contents parce que c'est pas à côté de chez vous. Ça va! C'est l'humain, quoi! Soyez sympa, merde! Oh, vas-y, hé, hey, tu pourrais dire merci, je t'apporte la fête de l'Huma sur Twitch. Tu pourras rester tranquillement à te gratter les couilles sur ton canapé et kiffer la fête de l'Huma, un peu. Salut Woody Lutri! Pas content car tout est à Paris. Alors en plus, c'est pas à Paris, hein, pardon, excusez-moi, hein, c'est en Essonne, c'est au Plessis-Trévy, au Plessis-Pathé. Et vous savez ce qu'ils disent les Parisiens quand on leur parle de la fête de l'Huma? Vous savez ce qu'ils disent les Parisiens, les vrais Parisiens, quand on leur dit la fête de l'Huma? Ils me disent: ah non, mais c'est loin. J'ai pas envie d'y aller, c'est trop loin. Voilà. Donc j'ai envie de dire: provincial parisien, même combat. Voilà. C'est vrai, mais bien sûr que c'est vrai, évidemment que c'est vrai. C'est au-delà du périph, faut prendre un train, un RER et tout. Les vrais Parisiens, pète burnes, non? Non, mais c'est trop loin. Garçon, je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Eh oh, eh ouais, je suis là. Putain, les garçons de café, vraiment, je sais plus ce que c'était. Hein. Voilà, Parisien. Oh putain. Pour les Parisiens, plus de 3 arrêts de métro, c'est loin. Ah oui, non mais clairement. Ah non, mais moi j'ai organisé des trucs à Paris, il y a des mecs qui ont eu le culot de me dire: ah, c'est loin comme arrondissement. Va te faire en... Enfin, tu es le bienvenu si tu le souhaites. Merci Davidin. J'ai peur que ce soit full gaucho. Alors, on va pas se mentir, c'est full gaucho la fête de l'humain. Voilà. C'est dit, c'est posé, c'est là, c'est sur la table, tu fais ce que tu veux avec cette information. La fête de l'UMA est un grand festival de la gauche française. Et voilà. Il est possible, si vous êtes de tendance raciste, par exemple, que vous passiez pas un excellent week-end à la fête de l'UMA. J'ai envie de dire, déso, pas déso pour la gêne occasionnée. Oh, bon, voilà. Merci Supermatou pour ton resub. Merci Salim aussi pour ton resub. Merci Gospod, Gospod pardon. C'est le moment pour se ramener avec des bons potes de droite. Eh, mais vous rigolez, mais donc Bolchegeek, je sais pas si vous connaissez Bolchegeek, c'est un vidéaste youtubeur lyonnais qui fait des vidéos sur YouTube depuis des années. Il est de gauche, hein, comme son nom l'indique. Il fait des vidéos sur la culture. Et il travaille pour le Journal de l'Humanité depuis un an. Il fait des chroniques pour le Journal de l'Humanité sur YouTube. Et il a fait une vidéo sur la fête de l'Huma. Et c'est une vidéo dans laquelle il va à la fête de l'Huma et il va interviewer des gens sur la fête, etc. Bon. Et il m'a raconté, j'étais avec lui cet été, il m'a raconté que quand il a fait cette vidéo, il est allé en mode micro-trottoir dans les allées de la fête de l'Huma, demander aux gens la fête de l'Huma et tout. Et il est allé parler à des gens. Et il y avait des gens de droite. Il y avait des gens de droite à la fête de l'Huma qui passaient une tête, qui venaient écouter un groupe de musique, qui étaient curieux, qui avaient envie de passer un bon week-end, enfin bref. Et il me disait, en fait, il y en a plein des gens de droite, ou en tout cas pas de gauche, appelez ça comme vous voulez, qui viennent à la fête de l'Huma, pour certains chaque année, et qui, au fond, sont un petit peu deg que la droite soit pas capable d'organiser un truc pareil, quoi. Mais ça, c'est leur problème. Et il me disait, en vrai, c'est trop cool, tu vois. Genre, les gens de droite qui viennent, bah, soyez les bienvenus, en vrai. Enfin, c'est pas de problème, mais. Merci Stouff, merci Ravidan pour vos resubs, merci. Attends, attends, où commence la droite? Ah putain, c'est vrai. Comment on reconnaît quelqu'un de droite à la fête de l'Huma? Le pull sur les épaules et les chaussures à gland. Fête de l'Huma, j'ai testé une fois il y a 15 ans, j'ai fumé des clopes Che Guevara en bouffant de la bouffe arménienne à un stand, il y avait un concert de Kali, j'ai rien compris. Meilleur témoignage ever de la fête de l'Huma. La fête de l'Huma, tu viens sans trop savoir. 1 heure plus tard, tu te retrouves avec une merguez à 3 euros en train de papoter avec un communiste de l'autre bout de la France sur un fond de musique reggae un peu chelou qui sort d'un stand, tu sais pas lequel. C'est ça la fête de l'Huma. C'est une ambiance, hein. Merci Durzuc, merci Geneza pour vos resubs, merci beaucoup. Donc voilà. Donc, Backseat à la fête de l'UMA, le 15 septembre, le vendredi 15 septembre, donc, premier soir de la fête de l'UMA. Plus d'informations à venir. Et voilà. Merci Lentor. Ça fait un peu peur les infos de transport en commun sur le site web. Patience, toutes les informations concernant le transport commun arrivent prochainement. Bah, c'est peut-être qu'ils sont en train encore de discuter avec les autorités régulatrices pour affréter des trains, affréter des cars, etc. Ils sont. Voilà. Pourquoi la fête de l'UMA, c'est autre chose qu'un festival de musique? Je t'invite à regarder une excellente vidéo de Bolche Geek sur YouTube, sur la chaîne Twitch de l'Humanité, qui va répondre précisément à cette question. Voilà. Pourquoi la fête de l'UMA, c'est pas un festival musical comme les autres? Et pourquoi c'est pas non plus une réunion politique comme les autres? C'est quoi cette fête de l'UMA? Ben voilà, regarde la vidéo de Bolche Geek. Merci petit poney. Est-ce que les journées d'été des écolos sont bien passées? Oui. Alors cette année, j'ai été invité par plein de partis politiques à participer à leur événement d'été. Vous savez, les universités d'été organisées traditionnellement par les partis politiques à la fin de l'été pour réunir leurs militants, leurs sympathisants et puis même pour ouvrir les portes à toutes les personnes. Et les universités d'été, c'est l'occasion aussi pour les partis d'inviter des personnalités extérieures au parti, des journalistes, des chercheurs, des sociologues ou des économistes ou des associatifs ou des syndicalistes, etc. Bref, c'est un grand moment de réflexion, d'ouverture de portes, de débat, de travail intellectuel et tout, dans un cadre informel. C'est ça une université d'été. Donc cette année, j'ai à nouveau été invité par plein de partis. Le problème, c'est que cette année, il y a beaucoup de partis qui organisaient leur université d'été le même week-end. Et moi, du coup, j'ai dit fuck, vous cassez les couilles, je vais aller que chez les écolos. Ils m'ont invité en premier. Vas-y, je vais chez les écolos. L'année dernière, j'avais pas pu y aller et tout. Ils m'ont invité. J'ai fait ok, bah cette année, je vais chez les écolos. Donc, je suis allé au Havre, là où se tenait l'université d'été des écolos. Alors, les écolos, en l'occurrence, ils changent de ville chaque année. C'est un peu la particularité des écolos. Ils ont fait à Poitiers, ils ont fait à Grenoble, et là, ils ont fait au Havre. Je sais pas où ils feront l'année prochaine. Alors que les autres partis, en général, c'est toujours au même endroit. Les socialistes, c'est à Blois. Avant, c'était à La Rochelle pendant longtemps. Maintenant, c'est à Blois. Les Insoumis, c'est à Valence. Voilà, bon, bref. Et donc, moi, cette année, j'ai répondu favorablement à l'invitation des écolos qui m'ont dit bah voilà, on voudrait que tu interviennes sur plusieurs ateliers qu'on va organiser. Donc, les ateliers, bon, chacun a sa terminologie en interne. Hein. Il y en a, c'est des tables rondes, des ateliers, des conférences. Appelez ça comme vous voulez. Et donc, ils m'ont invité à participer à plusieurs ateliers. Et donc, j'y suis allé avec plaisir et j'y suis resté 3 jours. J'y suis resté les 3 jours de l'événement, jeudi, vendredi, samedi. Et je suis particulièrement content d'être resté 3 jours. Vraiment. Parce que ça m'a permis de vivre l'événement autrement que si j'étais juste venu pour une demi-journée, participer à 2 ateliers et repartir. Ce qui est un peu malheureusement le truc que tu fais quand tu es un invité comme moi. Tu viens pour ton atelier, tu t'arrives à l'heure avec ton train, tu te pointes à l'atelier, tu serres 3 mains, tu dis bonjour, tu bois une bière et tu te casses. Et là, du coup, j'ai passé 3 jours. J'ai passé 3 jours à la fête de l'UMA, pardon, aux journées d'été des écologistes, les JDE, les journées d'été des écologistes, le nom de leur événement. Et c'était très cool parce que, bah, en fait, ces 3 jours pendant lesquels donc, j'ai participé à des ateliers, j'ai pris la parole, puisque les écologistes m'ont dit qu'ils étaient intéressés par ce que j'avais à dire sur 2, 3 thématiques, donc c'était sympa de leur part. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à simplement papoter, discuter avec des élus, avec des militants, avec des sympathisants, avec des gens, c'était cool. Et ça, pour moi, pour le métier que je fais, c'est hyper important. C'est très très important pour moi de juste prendre le temps, que malheureusement je n'ai pas assez, de discuter hors caméra, hors micro, avec des gens, pour avoir leur ressenti, mieux comprendre un petit peu. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle je suis très content d'être allé aux journées d'été des écolos. C'est parce que j'en repars. Je pense avec une idée un peu plus précise de ce qu'est le mouvement écologiste politique en France. Voilà. Et c'est cool, ça m'aide, c'est important pour moi. Le réseautage. Oui, alors le réseautage, c'est quand t'as des trucs à vendre. Moi, j'ai rien à vendre. Moi, je dois rien aux écolos et je leur demande rien. Je veux pas être élu, je veux pas un poste, je veux pas une subvention, j'en ai rien à foutre. Vraiment, moi, j'y suis allé gratos, hein. Suis pas militant, je suis pas adhérent, je suis même pas sympathisant, je suis extérieur. Voilà, donc moi, réseauter, si tu veux, non, c'était pas trop l'idée. Même pour Baxit? Ah non, mais moi j'ai rien à demander aux écolos pour Baxit, hein. Baxit va très bien. Baxit n'a pas besoin des partis politiques pour vivre, heureusement. Ce serait chiant quand même. Alors le nucléaire, ils sont pour ou contre? Ils sont contre. Voilà, la question est tranchée, hein. Les écolos, ils sont contre le nucléaire. Y a pas de... Puis ça fait pas débat chez eux, hein. Et t'as appris quoi de plus, par exemple? Bah, tu vois, c'est intéressant parce que... En fait, c'est normal, quand t'es extérieur à un mouvement politique, t'as tendance à l'homogénéiser dans ta tête. Voilà, c'est normal, c'est naturel, on a tous l'impression que les macronistes sont tous pareils, que les gens de droite sont tous pareils, que les gens d'extrême droite sont tous pareils, que les insoumis sont tous pareils, que les socialistes sont tous pareils, que les écolos, c'est des écolos, ils sont tous pareils. Et c'est normal, on a tous un peu cette habitude. Et là, après 3 jours embed à l'intérieur du parti à discuter avec eux, bah, j'en ressors avec une vision beaucoup plus subtile de l'écologie politique qui est en fait très diverse. Il y a des gens très différents les uns des autres. Il y a des militants très environnementalistes, il y a des militants qui, évidemment, sont intéressés par la question écologique au sens environnemental, mais qui, en fait, travaillent beaucoup plus sur les questions d'urbanisme, travaillent beaucoup plus sur les quartiers populaires. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec les militants des quartiers populaires et tout. Donc, il y a plein de gens. Les écolos, c'est très grand. Il y a de l'agriculteur bio à moustache, il y a du jeune de banlieue, il y a de l'énarque en chemise rentrée dans le pantalon, il y a du... Il y a un peu, c'est assez divers, les écolos. À part des bourgeois blancs, il y a quoi à ELV? Il y a rien, il y a rien. Non, 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 mais dis-toi qu'il y a rien. Non, mais t'as raison. Dis-toi qu'il y a rien, que tout le monde il est pareil. Sauf toi qui es divers, mais les autres, ils sont pas divers. Des militants anti-nuc. Ouais, il y a des militants anti-nucléaire. Il y a aussi des militants, il y a aussi des adhérents du Shift Project chez Europe Écologie Les Verts. Voilà. Les gens covicistes, il y en a chez Europe Écologie Les Verts. Ils existent. Ils sont pas majoritaires, ils parlent pas très fort, mais ils sont là. Voilà. On pourrait croire que, mais en fait non, ils existent. Il y en a qui posent la question du nucléaire, de la politique énergétique, etc. Bon, bah ils existent quoi. Il y a des proches de Jadot, il y a des proches de Rousseau, il y a des proches de Tondelier. Il y a des gens différents. Il y a plusieurs analyses. Il y a des écolos qui sont pour une autonomie absolue de l'écologie politique. Il y a des écolos qui sont proches des insoumis et qui voudraient une alliance avec les insoumis. Il y a des écolos qui sont proches des socialistes qui voudraient plutôt une alliance avec les socialistes. Voilà quoi. Il y a des complotistes. Il y a des complotistes chez les écolos. Il y a des anti-vax. J'en ai pas vu des masses, hein, je t'avoue. Ou alors j'ai pas discuté avec les bonnes personnes. Donc voilà quoi. Le nombre de tendances en interne est colossal. Partie le plus intéressant à écouter dans ces discussions internes, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. J'en retiens en tout cas une grande diversité sur la question tactique. Évidemment, vous vous en doutez bien, on a passé un temps fou et on a fumé un nombre de clopes incalculables à discuter des européennes. En plus, on était en plein pendant les universités d'été, il y avait Ségolène Royal qui a foutu l'ambiance aux amphis, etc. Donc c'était une discussion et j'ai senti que les écolos, ils n'étaient pas tous sûrs à 100% de la stratégie, tu vois, ils en discutent. Ils ont conscience des limites du truc, ils sont parfois un peu critiques avec Marine Tondelier, il y en a d'autres qui au contraire défendent l'idée. C'est intéressant, quoi. La nuance, ouais, la nuance. Donc voilà, quoi. La stratégie est super mauvaise. Il y en a qui défendent cette idée-là chez les écolos. Pas tous. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi, c'est un peu ce que je retiens de cette virée de 3 jours au sein de la famille des écolos. Un parti très jeune et très sympa, hein. Clairement, c'est vraiment des gens adorables. Mais ça, j'ai envie de te dire, tous les militants sont des gens adorables. Quand j'étais allé aux amphis, les militants insoumis sont super sympas. Pareil aux amphis, hein, j'avais discuté avec 1 milliard de jeunes insoumis. Ils étaient vachement plus fins et subtils que l'image qu'on peut s'en faire de l'extérieur en disant ah, les mélanchonistes et tout, bah non, c'est compliqué la France insoumise, il y a plein de gens, ils sont différents les uns des autres, ils n'ont pas tous les mêmes délires et tout, c'est voilà, bah là c'est pareil, et tout le monde est sympa, donc tout ça pour dire que tout le monde est sympa, les écolos c'est pas les derniers sur la picole et sur la teuf, clairement, et puis par ailleurs, ah, tiens, il y a aussi un truc que j'ai retenu en sortant justement, parce que je parle de ça, il y a quand même une culture militante dans la mouvance écologiste de la bienveillance. Alors vous allez me dire, ça veut rien dire cette phrase, mais en fait, une fois que j'ai passé 3 jours, je sens qu'il y a une fibre particulière chez les écologistes qui vise à la bienveillance. Il y a une vraie volonté de faire de la politique autrement, sous-entendu, de la politique qui, tout en acceptant les rapports de force, refuse une partie de la brutalité. Et du coup, ça en fait vraiment une famille politique extrêmement sympathique, agréable, même quand ils ne sont pas d'accord entre eux. Je vais vous expliquer des exemples, mais moi, j'ai des souvenirs d'université d'été, notamment à l'époque au Parti Socialiste, où en interne au parti, il y a vraiment des guerres de clans, l'émotion, tout le monde s'engueule en permanence. Et du coup, il y a vraiment des tablées de militants qui déjeunent pas ensemble, qui limite se font la gueule, se claquent pas à la bise de tout le week-end. C'est vraiment chacun vit son université dans son couloir de nage et tout machin. Bon, voilà, c'est une culture militante un peu différente, très UNEF. On se fait la guerre en permanence et tout. Bon, bah, les écolos, entre gens de familles politiques différentes au sein du parti, bon, en fait, ils s'entendent bien les uns avec les autres, ils rigolent. Peut-être que le fait que leur congrès ait déjà eu lieu l'année dernière a un peu réglé les questions et que du coup, ils y allaient un peu mollo. C'est possible, possible. Pas non plus que je sois trop béni oui-oui et tout. Mais j'ai trouvé que franchement, voilà, cette culture de la bienveillance en politique m'a un peu sauté au visage. Et j'ai trouvé ça intéressant. Vigneron indépendant, ah, il y avait du pinard. Hein. D'ailleurs, le premier soir, j'ai été alpagué par le gang des Lyonnais. Les élus métropolitains, là, les élus de la métropole de Lyon, ils m'ont chopé par le bras, ils m'ont dit, tu viens boire des coups avec nous. Ils m'ont attaqué à coups de coude de Rhône. Ils m'ont tabassé. Le lendemain, j'ai croisé Grégory Doucet, du coup le maire de Lyon. Je suis allé le voir, je lui ai fait, putain, ils sont dangereux. Hein. Il m'a dit, ouais, t'as vu, hein, fais gaffe. Hein. Ah, ils attaquent fort, hein, les Rhône-Alpins. Le lendemain, c'est les Bretons qui m'ont dit non, mais t'inquiète, Jean, laisse les Rhône-Alpins, c'est des cons, viens avec nous. Et on a fait la teuf avec les Bretons. T'as visité le Havre? Alors oui, j'ai même découvert le Havre. Moi, j'étais jamais allé au Havre de ma vie. J'en savais rien, je m'en foutais un peu. Je savais que c'était la ville d'Édouard Philippe et tout machin, mais du coup, j'ai découvert le Havre. Et ben clairement, le Havre. Ils n'ont fait que gagner des points dans mon estime chaque heure que je passais au Havre. Super ville, vraiment sympa, bel endroit. J'ai découvert des bars trop cool. J'ai passé une tête à la plage le samedi parce que j'avais un peu de temps, j'avais pas d'atelier et tout. Donc je suis allé à la plage. En plus, il y avait le FIS Festival, vous savez, le festival de skate, de roller, de BMX, etc. et de trottinette qui était de passage au Havre. Donc du coup, bah, j'ai passé une tête, ça m'a fait plaisir. Du coup, je me suis un peu baladé sur le front de mer, c'est super sympa, le centre-ville. Non, enfin vraiment, les docks et tout. L'alcool a aidé. Alors clairement, l'alcool a aidé. J'étais au Havre dans un cadre festif, bonne ambiance et tout. Une de mes meilleures amies en plus habite au Havre et ça m'a fait trop plaisir d'aller la voir parce que je l'avais pas eu depuis longtemps avec son bébé et tout. Donc vraiment, le Havre, très bonne ville, super, sympa. Voilà. La puissance du port du Havre. Ah, j'ai ressenti la puissance du port du Havre dans mes tripes et dans mon foie. Quel bar je suis étudiant là-bas? J'ai découvert la halle aux poissons. J'ai découvert la halle aux poissons. C'est une halle aux poissons, c'est vraiment une criée, hein, comme vous imaginez, sauf que ça a été transformé en bar. Et du coup, c'est ouvert aux quatre vents. Il y a un DJ set au milieu et tout. Très très cool comme bar. J'ai découvert le volcan, l'espèce de centre-ville là, un peu chelou, avec un bar en dessous qui s'appelle pas le volcan, mais je sais plus comment, et qui ferme jusqu'à 2 h et qui met de la musique. Et le dernier soir, on était en boîte et la boîte s'appelle, je sais plus, juste à côté du dock des Havres. Du dock des. Du carré des docks. Voilà. Il y a une boîte au bout de la rue. Le Calypso, c'est ça, le Calypso. Bien vu, Jatoten. Donc j'ai fini au Calypso. Éclataxe. À discuter avec Marine Tondelier pendant qu'il y avait de la grosse musique qui nous hurlait dans les oreilles et on parlait stratégie politique à 2 h du mat. Est-ce que les gens prenaient comment la polémique sur Médine? Alors, Médine, la polémique a surtout existé en dehors des universités d'été, des écolos. Eux, sur le moment, personne n'en parlait. C'était pas un sujet. Voilà, c'était pas un sujet. Quand Médine est arrivé, il a été accueilli avec un tonnerre d'applaudissements. Voilà, les militants écolos, pour eux, c'était pas un sujet, c'était un sujet de polémique dans les médias, ailleurs à gauche, etc. Mais sur place, personne n'en parlait. En fait, c'était même pas un sujet. Voilà. Le boycott de la maire de Strasbourg et du maire de Bordeaux à ce sujet. Pareil, ça a pas, encore une fois, ça n'a pas été un sujet, tu vois. Personne n'en a parlé sur le moment. Parler stratégie politique en boîte à 2 h du mat, j'ai pas coché ça dans ma checklist de la vie. Ah, tu devrais, c'est les meilleurs moments. Quand t'es un peu arraché, fatigué après 3 jours et que t'es là en train d'échanger ton point de vue en disant mais bordel. C'est un peu ouf quand même, j'aurais au moins pensé que sa conférence à lui allait être désertée. C'était la conférence où il y avait le plus de monde de tout l'événement. La conférence de Médine. Bon, en même temps, c'était la tension médiatique qui était là, il y avait des caméras partout et tout. Donc ouais, il y avait plein de militants qui étaient là, qui voulaient l'écouter. Et voilà. Et moi, pour tout vous dire, je ne l'ai pas écouté parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire une sieste. Même pas une blague. Hein. Je suis complètement passé à côté du sujet Médine aussi parce que j'ai roupillé. Tu te sens plus proche de quel parti actuellement? Je me sens proche d'aucun parti, moi, tout va bien, je vis ma vie, tout roule. T'as croisé Ruffin? Non, j'ai pas croisé. Alors putain, c'est aussi la tristesse, c'est que j'ai beau avoir passé 3 jours à discuter avec tout le monde, il y a plein de gens que j'ai pas eu l'opportunité de croiser, ou alors pas autant que j'aurais voulu. J'ai croisé Boris Vallot, j'ai croisé. Mais à chaque fois, tu vois, j'ai serré la main, j'ai papoté, raconté 3 blagues, donné des nouvelles, t'as passé un bon été, ouais, alors la rentrée, Baxit, ça reprend, ouais. Enfin, c'est vraiment le béaba, tu vois, de la discussion, mais j'ai pas trop eu le temps de discuter. Donc, ouais, j'ai pas discuté avec Ruffin. Mais Ruffin, je l'avais déjà croisé en juin. Marie Toussaint, elle était très prise parce qu'elle allait à Valence et tout, je l'ai pas vue. Sandrine Rousseau, je l'ai vue, on a papoté, ça m'a fait plaisir. Marine Tondelier, je l'ai vue, on a papoté. Raphaël Rémy-Leleu, Pauline Rapilly-Fermiot. Non, il y a des gens que j'ai croisés, j'étais content. Mais si je commence à faire la liste des gens que je regrette de ne pas avoir plus croisés. David Cormant, pareil, il était là pendant 3 jours. Enfin, 3 jours, je l'ai croisé en me disant putain, il faudrait que j'aille discuter avec lui à un moment. Laisse tomber, j'étais alpagué à droite à gauche. Les jeunes écolos qui étaient adorables, qui venaient me parler tout le temps, c'était trop cool. Donc voilà quoi. Est-ce qu'ils sont invités sur Backseat, ceux que tu as croisés? Bah, il y en a plein qui l'ont déjà été. Et puis les autres, on verra. Ruffin, tu l'as croisé où en juin ou en juin? Non, je l'ai croisé en juin. Merci pour vos resubs. Pardon, hein, je vous remercie pas. Merci Benjamin, merci TheServalou, merci Le Chop, merci Eliorey, merci Glawal, merci Commander Ham, merci Druidodu, merci Jionel Lospin, merci Vilmorar, merci Fibolapin, merci Aldan, merci Petit Poney, merci Licorne, merci Lentor, merci Geneza, merci Durzuk, merci Miliana, merci Ravilan, merci Stouff, merci Supermatou, merci Salim, merci à toutes et à tous. Est-ce que tu t'es reposé au moins? Non. Bah non. Passer 3 jours. Alors par contre, c'est fatigant les universités été. Hein. Si vous avez jamais fait d'université été, c'est fatigant parce que bah tu passes plusieurs jours juste debout en fait. Enfin, t'es debout. Tu piétines, tu fumes une clope, tu vas boire un verre, un café, tu manges un morceau sur un coin de table. On t'appelle pour bouger, donc tu bouges, tu rencontres des gens, tu restes debout un quart d'heure pour discuter. Et en fait, à la fin de la journée, bah putain, t'as juste pas eu le temps de reposer ton dos quoi. Donc non, c'est fatigant, mais c'est de la bonne fatigue. Moi j'aime bien, c'est juste hyper agréable quoi. Merci Nictu, merci Doc of the Bay, merci Led Zeppelin, merci Zorro voilà. Salut France Rugby. Et donc voilà, donc oui, moi j'étais très content encore une fois, voilà, d'être invité à l'université été, aux journées d'été des écolos. Je suis intervenu sur un atelier sur l'indépendance des médias. Animé par Sophie Taillé-Polian, qui est la députée écolo, enfin elle vient de Génération, mais elle siège avec les écolos, qui a déposé la proposition de loi sur l'indépendance des médias suite au rachat du JDD par Bolloré. J'ai participé à un atelier sur les réseaux sociaux avec Louis Boyard et Léa Chamboncel, que vous connaissez bien. C'était hyper intéressant. Plein de jeunes écolos et tout, super sympa. Bah ça c'est l'atelier où j'ai remplacé Usul à la dernière minute parce qu'il pouvait pas être là. J'ai participé à un atelier sur le racisme dans la police et la politique des quartiers populaires avec des militants associatifs hyper cool. Si le sujet était pas très fun, mais c'était quand même hyper intéressant. Et j'ai participé à ce qu'on appelle un canapé dans le jargon des écolos. Le canapé c'est un truc où ils foutent un canapé sur scène et il y a une discussion entre un invité et un ou une responsable d'Europe Écologie Les Verts. Et donc j'étais avec Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écolo à l'Assemblée nationale. Et donc on a papoté sur le canapé, on a parlé de... Elle m'a posé des questions sur comment intéresser les jeunes à la politique. et quelle stratégie adopter quand tu as un parti politique pour parler aux jeunes. Et moi, je lui ai posé des questions sur l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Elle, en tant que présidente de groupe d'opposition, comment est-ce qu'elle voyait ça? Voilà. Et bah, c'était super intéressant comme discussion. C'était chouette. C'est une table ronde, mais en plus chill. Ouais, en vrai, le canapé, c'est une bonne invention. Hein. C'est une bonne invention des écolos d'avoir juste un espace de discussion un peu plus chill qu'une table ronde où tu es assis sur une chaise et tu prends ton micro, etc. Merci beaucoup, Krasmazov, qui a offert un sub à France Rugby. C'est sympa de ta part, merci. Merci Bantempo aussi, et merci Dana pour vos resubs. Boyard, il n'est pas LFI. Si, mais alors justement, les universités d'été, ça sert aussi aux partis politiques à inviter des personnalités extérieures au parti pour avoir des discussions. C'est pour ça que moi j'ai été invité, moi je suis pas écolo, j'ai été invité parce que les écologistes m'ont proposé de venir parce qu'ils voulaient que je participe à des tables rondes, ils avaient des questions à me poser et tout. Et ben ils font pareil avec des partenaires d'autres partis politiques qui sont invités à venir s'exprimer. Et c'est comme ça qu'il y avait des insoumis, il y avait des socialistes, il y avait... comment il s'appelle Édouard Philippe était censé venir, mais il a décommandé sa venue, il a annulé sa venue après la polémique sur Médine. C'est son droit. Donc il n'est pas venu, mais il était prévu qu'il vienne, tu vois. Passer une tête, c'est le maire du Havre, les mecs sont au Havre, il était prévu. Bon, écoute, il n'est pas passé, c'est pas grave. LFI avait même invité Rachida Dati. Oui, non, mais ça, c'est habituel. Alors, je sais que ça peut surprendre de l'extérieur quand on n'est pas habitué, mais c'est habituel. Les universités d'été, c'est l'occasion pour les partis d'inviter des personnes extérieures au parti pour avoir des discussions, des débats. C'est pour ça que Ségolène Royal a été invitée chez les Insoumis. Vous en avez peut-être entendu parler. Bah voilà, Ségolène Royal, elle n'est pas insoumise. Hein. Bon, bah, elle a été invitée par les Insoumis à parler et elle a dit des trucs. Merci, Fouftouille. Est-ce qu'il y a une rediff sur YouTube? Non. Il n'y a pas de rediff sur YouTube des universités d'été. En tout cas, des ateliers auxquels moi j'ai participé, c'était pas filmé. Donc c'était une exclue, fallait être sur place. Moi, ça reste même majoritairement des gens de gauche, voire plus. Bah oui, mais enfin bon, oui, la discussion c'est sympa, mais quand t'es antiraciste, tu vas pas inviter des racistes à débattre, tu vois. C'est un exemple, hein. De la même manière que quand t'es raciste, tu vas pas inviter des antiracistes à débattre. Je sais pas, tu vois, un minimum de cohérence. Dans l'arc républicain, tu peux inviter des gens, dans ce que tu estimes être l'arc républicain. Beaucoup de spécialistes aussi chez les journées d'été. Alors oui, les journées d'été, c'est aussi l'occasion, pas que d'inviter des politiques, mais aussi d'inviter des journalistes, d'inviter des experts, des scientifiques, des spécialistes de dossiers divers et variés pour parler de sujets. Voilà. Tu vois, moi, par exemple, la table ronde sur laquelle j'ai participé sur les quartiers populaires et le racisme dans la police, il y avait des militants associatifs des quartiers populaires. Et il y avait une sociologue qui est venue parler de la sociologie des enquêtes d'opinion sur le racisme dans la police, etc. Voilà. Une sociologue qui était invitée. Ça sert à quoi tous ces débats? Eh bien, ça sert à participer à la vie intellectuelle d'un parti politique. Un parti politique, je vous le rappelle, c'est une formation, c'est une association de citoyens qui se donne pour but d'élaborer des propositions dans le débat politique et de présenter des candidats à des élections pour porter ces propositions. Dans le cadre de l'élaboration de la doctrine politique et de la réflexion d'un parti politique, il y a tout un travail intellectuel qui est mené à l'occasion de plein d'événements dont les universités d'été font partie. Voilà. Il y a aussi de la formation, il y a aussi des think tanks, il y a aussi des fondations, il y a des journaux, il y a des machins. Enfin bref, la vie intellectuelle d'un parti, ça se fabrique aussi au fur et à mesure avec des échanges, des débats, des dialogues, etc. Est-ce que les partis du centre et de droite font des universités d'été? Alors historiquement, les universités d'été, ça a été inventé par l'UDF, donc c'est un truc qui a été inventé par le centre hein, dans les années 70. Ils font des universités d'été, alors je crois que le MoDem, oui. Renaissance, je crois qu'ils n'en font pas. Renaissance, je sais pas s'ils font des universités d'été à proprement parler. Ils font des événements comme tous les partis, mais ils doivent faire des réunions publiques, des trucs comme ça, des réunions militantes. Mais je sais pas s'ils font des événements de type université d'été. Ils doivent faire des meet-up LinkedIn. Oh, ça va, je rigole, ça va. On peut rigoler, on peut se moquer un peu, ça va. Et les Républicains, ils font des événements. Ouais, les Républicains, ils font des rentrées politiques. Bah là, par exemple, Éric Ciotti a fait un événement à Nice pour la rentrée politique des Républicains. Donc voilà. Pourquoi ça s'appelle université? Pourquoi ça s'appelle les universités d'été? C'est une bonne question. Bah, ça doit avoir à voir avec ce rapport intellectuel. Voilà, ce travail intellectuel qui est mené par les partis politiques. Historiquement, on appelle ça des universités. Non, c'est une bonne question. Je sais pas, tu vois. C'était pas juste un meeting. Non, c'est pas juste un meeting. Les universités d'été ne sont pas juste des meetings, ce sont des réunions. Dans laquelle il y a, ce sont des événements sur plusieurs jours, ou parfois sur une seule journée, ça peut arriver, au cours desquels il y a un cadre informel, festif, sympa. Les militants ont du plaisir à se réunir, à se rencontrer, à passer un peu de temps ensemble au soleil. Ce sont des moments informels parce que ce n'est pas des moments, comment dire, ni institutionnels certainement pas, et encore moins, et non plus des événements, putain, statutaires. C'est pas un congrès. Université d'été, c'est pas un congrès. Les militants sont pas là pour voter ou prendre des décisions. C'est juste un temps de discussion, de débat et de convivialité. Et donc voilà. Merci Chavnob pour ton resub. Merci Fautouille aussi pour ton. Fauftouille pour ton resub. Merci beaucoup. Université qui a formation des militants aussi. Il y a aussi un peu de formation des militants. Alors ça dépend des partis. Il y a des partis qui profitent de l'université d'été pour aussi faire la formation militante. Il y en a d'autres, c'est moins le cas. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait des écolos de droite? Ça dépend de ce que toi tu appelles la droite. Et tu n'es pas obligé de me le dire, j'en ai pas grand-chose à branler. Mais tu as le droit d'avoir une opinion sur le sujet. Ça me va très bien. Il y a bien des universités d'été chez Renaissance, n'en déplaise à la minorité. Il y a des universités d'été chez Renaissance. Ah ouais, mais je l'ai pas vu passer. Mais ils font ça où, Renaissance, les universités d'été? Moi, je vois pas passer les. Si t'as des infos, je suis preneur. Mais moi, j'ai pas vu l'université d'été Renaissance. Merci, Fjellras. Globalement, c'est bonne ambiance, genre possible de parler à un opposant politique en public de façon OK. Ah oui, les universités, c'est très bonne ambiance. Oui, complètement. C'est très très bonne ambiance, les universités d'été. C'est justement fait pour être ouvert, y compris aux sympathisants, aux gens qui sont pas adhérents et qui veulent un peu découvrir et tout. Si vous, bah tiens d'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne, si vous vous sentez un peu proche d'un parti mais que vous savez pas trop, l'université d'été, c'est un bon moyen de découvrir le parti. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. C'est une manière un peu sympa de rencontrer le parti, rencontrer ses militants, les écouter parler un peu, sentir un peu l'ambiance. Et si vous vous sentez bien, bah pourquoi pas, vous pouvez adhérer si c'est votre truc, mais vous n'êtes pas obligé. C'est à Bordeaux pour Renaissance. D'accord, donc il y a des universités d'été à Bordeaux pour Renaissance. Eh bah, ben, j'ai pas vu. Est-ce que tu as été invité par les Républicains? Oui, j'ai été invité par les Républicains à un événement qu'ils organisent plus tard, et malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Et j'en suis très triste, c'était très gentil de la part des Républicains. C'est les jeunes Républicains qui m'ont invité à cet événement. Ils m'ont invité à une table ronde sur je ne sais plus quel sujet. Et malheureusement, la date ne me convient pas du tout. Je ne peux pas du tout ce jour-là. Et je leur ai dit que j'étais très triste de ne pas pouvoir y aller. J'y serais allé avec plaisir discuter avec les Républicains. Parce que tu vois, rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que je suis très content d'être allé chez les écolos pendant 3 jours, parce que ça m'a permis un peu de passer du temps à discuter avec les écolos et un peu mieux comprendre leur parti, etc., leur diversité, leur mode de fonctionnement et tout. J'aimerais bien faire pareil avec les Républicains, qui restent encore aujourd'hui une énigme pour moi. J'aurais bien passé du temps à boire des coups avec des Républicains pour leur poser 1 milliard de questions. Vous vous doutez que j'en ai plein des questions à poser aux Républicains. Merci Anna Débule pour ton resub. Non, ça, à Bordeaux, c'est le congrès. Les universités d'été, c'est départemental. Donc pour Paris, c'est à Paris. Ah, d'accord. Attention, le congrès et les universités, c'est pas la même chose, hein. Attention. Le congrès d'un parti, je vous rappelle que le congrès d'un parti, c'est un moment statutaire au cours duquel le parti vote, prend des décisions sur son orientation politique, sur sa composition de ses organes de direction. Par exemple, c'est là qu'il y a des élections pour le porte-parole ou le premier secrétaire, appelez ça comme vous voulez, ou le président du parti, pour, etc. C'est ça un congrès d'un parti politique. C'est un moment de décision. C'est un peu l'assemblée générale du parti. Une université d'été, vous avez compris que c'était pas ça. C'est un événement informel. De discussion, de réflexion et de débat. Voilà. Donc le congrès de Renaissance, c'est à Bordeaux, et les universités, tu me dis que c'est départemental. D'accord, donc il y a une université été par départ. Ok, d'accord. D'accord. Tu leur demanderais pourquoi LR ne rejoint pas direct le RN. Bah, par exemple, tu vois, moi si j'avais l'occasion de papoter avec des militants, les Républicains, je leur demanderais effectivement qu'est-ce qu'ils estiment être la différence fondamentale entre eux et le Rassemblement national de Marine Le Pen, qu'est-ce qu'ils estiment être la différence avec Emmanuel Macron, quelles idées est-ce qu'ils se font de l'identité politique des Républicains aujourd'hui, comment est-ce qu'ils voient les choses. Enfin, ouais, non, j'aimerais bien avoir une discussion, avoir plein de discussions avec des républicains pour essayer de leur demander où est-ce qu'ils, comment eux voient les choses. Parce que c'est facile de l'extérieur d'avoir une opinion. D'ailleurs, c'est très bien d'avoir une opinion de l'extérieur. Vous avez le droit d'avoir une opinion sur les républicains, je m'en branle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir celle des républicains sur eux-mêmes. Donc voilà. Donc j'aimerais bien passer un peu de temps à papoter. Et ça aurait été l'occasion. Bon, c'est une occasion ratée. Merci aux républicains de m'avoir invité. Je ne pourrai pas cette année. Mais si vous me faites la gentillesse de me réinviter l'année prochaine, j'essaierai de venir. Tu risques d'avoir une réponse différente par personne. Ben oui, mais c'est pour ça que j'ai envie de discuter avec eux. C'est pour ça que ça m'intéresse de discuter avec eux. C'est pour avoir leur réponse à eux, pas la mienne. Avec Emmanuel Macron, ils ont très peu de différence, je trouve. J'entends. Mais tu auras compris que je ne te demande pas ton avis à toi, j'aimerais bien avoir leur avis à eux. Et je viens de renverser de la flotte comme un connard! Non, c'est bon, hop là, hop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça n'a pas touché le clavier, c'est bon, c'est safe. Tout va bien. Hop. Ouais, donc voilà, donc moi l'écologie, j'adore, hein. J'ai toujours aimé l'écologie, la pollution, ça pue, il faut pas polluer. Est-ce que tu as fait des belles rencontres aussi, des gens que tu n'as jamais croisés? J'ai fait que des belles rencontres, hein. Les écologistes, je vous l'ai dit, ils sont super sympas. Non, j'ai rencontré des militants adorables, des gens super sympas avec qui j'ai passé du temps à discuter, des élus, des militants, des sympathisants, des... Non, bien sûr, j'ai rencontré que des gens super sympas, hein. Après, j'avais échangé avec un gars qui était sympathisant LR et qui me disait que la ligne qui divergeait avec le programme de Macron, c'était le libéralisme accentué et que c'était plus proche d'une politique conservatrice. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi de la bouche de... Je me souviens, c'était des sénateurs, les Républicains, que j'interviewais, où je leur demandais c'est quoi votre différence avec Macron. Et il y en avait pas mal qui, effectivement, critiquaient Macron en disant Macron, c'est le néolibéralisme dans ce qu'il a de plus dégueulasse, de mondialiste, dans le mauvais sens du terme, agressif. Enfin, c'est vraiment le capitalisme agressif. Du chacun pour sa gueule et tout, alors qu'il y a une vision conservatrice d'un capitalisme plus. Comment dire? Plus réfréné, moins ostentatoire et tout. Après, il y a plusieurs familles au sein des Républicains, ils sont pas tous d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a une unanimité sur le nucléaire à Europe Écologie Les Verts? Une unanimité, je ne saurais pas te répondre. Une diversité de points de vue, oui. Mais le sujet reste quand même global. Oh putain, 50 subs! 50 subs offerts! Merci beaucoup, SDJ, LJS, DK, LJF, SLK, pour les 50 subs!
Combien?
50 subs! 50 subs, merci beaucoup, c'est énorme, merci beaucoup pour ce très beau cadeau à la communauté, merci à toi, merci à vous. Allez, on s'ambiance!
Ouais.
Millions d'euros.
Corn Sub. C'est un très très beau cadeau que tu as offert au chat. Je te remercie. Très généreux de ta part. Merci à toi. Waouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi. Et je sais plus ce qu'on disait. C'est combien un sub? Je t'invite à le découvrir en cliquant sur le petit bouton violet avec le bouton gauche de ta souris. Merci Vibon. N'hésite pas à garder la carte bleue pas très loin de toi. Qu'on le couvre d'or. Diversité de point de vue sur le nucléaire. Oui, c'est ça. Le sujet du nucléaire n'est pas un sujet qui fait beaucoup de débat au sein des écolos. Voilà, je vous le dis. Moi, j'ai passé 3 jours au d'université des écolos. Il n'y a pas de débat en interne. La question, elle est tranchée. Les écologistes sont contre le nucléaire. Point. Est-ce que ça veut dire que tous les militants sont opposés au nucléaire? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les militants sont d'accord pour sortir du nucléaire en claquant des doigts? Non. Il y en a qui discutent sur la méthode, sur machin, etc. Mais globalement, ils sont d'accord pour sortir du nucléaire. Voilà. C'est pas un sujet qui fait beaucoup débat en interne, quoi. Voilà, c'est tout. Quel est le statut d'un parti politique, entreprise, association? Ce sont des associations, les partis politiques. Ce sont, alors, il y a un statut un peu particulier parce qu'ils peuvent présenter des candidats à des élections, donc il y a des spécificités, notamment des règles supplémentaires qui s'appliquent à eux. Mais un parti politique est une association à but non lucratif qui réunit des citoyens qui adhèrent au parti. C'est ça un parti politique. Ils sont pour un recul progressif pour permettre de développer le renouvelable. Ça dépend des écolos. Il y a des écolos qui, effectivement, sont pour sortir à terme du nucléaire après avoir investi massivement dans les énergies alternatives, machin. Il y en a peut-être qui sont un peu plus radicaux et qui disent non, il faut sortir tout de suite du nucléaire, il faut aller le plus vite possible pour éteindre les centrales. Ils sont pas tous d'accord entre eux sur la méthode pour sortir du nucléaire. Mais globalement, l'idée qu'il faut sortir du nucléaire, ça, les écolos, ça fait pas débat. Voilà. Usul n'était pas aux journées d'été des écolos. Non, il devait y être, mais il n'a pas pu venir. Ça n'a pas été un échec, la stratégie de Marine Tondelier pour rassembler un maximum d'adhérents, son grand tournant du parti, ça en est où? Bah, ça n'a pas été un échec puisqu'elle a été élue, qu'elle a une large majorité au sein de son conseil national. Donc non, Marine Tondelier, c'est pas un échec. Sauf si gagner une élection, c'est un échec, mais bon. Son grand tournant du parti, bah, Marine Tondelier, elle est en train de faire un travail de prospective avec les sympathisants écolos. Elle a lancé un questionnaire pour travailler sur l'avenir du parti écolo. Voilà. Comment est-ce que tu expliques la gentillesse des militants IRL versus l'image d'extrémistes agressifs qu'ils montrent sur les réseaux sociaux? Et bien ça a été l'objet, figure-toi, d'un des ateliers auxquels j'ai participé. Les jeunes écologistes m'ont invité à participer avec Léa Chamboncel et avec Louis Boyard à un atelier sur les réseaux sociaux. Et ça a été l'occasion pour nous de discuter de ça, du militantisme sur les réseaux sociaux. Et comment est-ce que j'explique la différence? Ben c'est simplement que c'est pas les mêmes en fait. Il se trouve que Louis Boyard et Léa et moi, on était assez d'accord pour dire que malheureusement pour les partis politiques, une bonne partie des militants en ligne des partis politiques sont de bien piètres panneaux publicitaires pour leur parti, puisque leur comportement en ligne, notamment les comportements de cyberharcèlement, d'agressivité verbale, etc., ne servaient à rien d'autre qu'à faire perdre des électeurs au parti. Et on était d'accord aussi pour dire que c'est pas la majeure partie en fait. Et c'est d'ailleurs ce que regrettent parfois les partis politiques. J'en discutais avec des élus, tu vois, j'en discute aussi de ce sujet-là parfois avec des élus qui me disaient, mais ouais, c'est chiant parce que pour 10 militants sympas, sincères, de terrain, t'as un connard sur Twitter qui va pourrir la réputation du parti à lui tout seul. Et juste, c'est chiant, quoi. Et ça les énerve, et voilà. Je suis un piètre militant LFI sur Twitter. J'en sais rien, je sais pas qui t'es sur Twitter. Et je m'en branle un peu, je t'avoue. Mais il y a des militants LFI, mais pas que LFI, hein, sur Twitter, qui effectivement, ou des gens qui se prétendent comme tels, je sais même pas s'ils sont militants à l'effigie, j'en ai rien à foutre, mais il y a des gens sur Twitter qui ont un petit triangle rouge dans leur pseudo avec une petite tortue sagace sur le côté, donc qui montrent leur adhésion à la France insoumise et qui ont un comportement sur Twitter qui fait perdre quotidiennement des électeurs à la France insoumise. Juste un comportement de sac à merde, hein, tout simplement, de cyberharcèlement, de machin. Mais il n'y a pas que les insoumis, il y a aussi des écolos, hein. Et je l'ai dit aux écolos d'ailleurs, moi je suis pas là pour charger la barque des insoumis particulièrement, il se trouve qu'ils sont très visibles, mais c'est pas les seuls. Il y a des écolos sur Twitter qui sont insupportables. Il y a des écolos qui viennent péter les burnes à n'importe qui sur Twitter en disant « Comment ça, tu manges de la viande, t'es pas vraiment écolo ?» Il y a des donneurs de leçons, des gens qui ont un ton péremptoire, ça existe. Et dans beaucoup de partis, hein. Chez les macronistes aussi, hein. Macronistes qui te prennent de haut, le macroniste qui te prend de haut du haut de son Master 2 Affaires européennes et qui vient te parler comme si t'étais la dernière des merdes parce que t'as rien compris. Bon bah voilà, bah pareil, arrêtez de faire ça. Si vraiment vous voulez militer pour votre parti, si vraiment vous voulez que votre candidat gagne les élections, si vraiment c'est ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le vouloir, mais si vraiment c'est ce que vous voulez, commencez par arrêter de vous comporter comme des sacs à merde sur Internet, vous l'aiderez beaucoup mieux. Comme les gens Covizouz. Les gens Cozouz, pareil. Les gens Cozouz, ils aident pas beaucoup Jean-Marc Jancovici. Hein. voilà. Moi, je suis ni pour ni contre Jean-Marc Jancovici. C'est pas vraiment le sujet pour moi. Mais il y en a certains sur Twitter. S'ils pouvaient lever le pied 2 minutes, je pense qu'ils aideraient plus Jean-Marc Jancovici que ce qu'ils pensent faire. Et alors les Massiézouz? Ah non non, je veux pas de Massiézouz. Ah non 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 non, ne vous comportez jamais en Massiézouz sur Internet, je vous en supplie. Je ne veux pas avoir des hordes de gens qui me défendent sur Twitter, qui prennent à partie les autres en mon nom. Etc. Non non, jamais, ne faites jamais ça. Je ne veux pas avoir de communauté en ligne. Ah non, s'il vous plaît. C'est quoi un Massiézouz? Justement, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas un Massiézouz. Et c'est très bien comme ça. Moi, je fais semblant de pas te connaître. Voilà, très bien. Très bien. Faites semblant de pas me connaître. Ça me va très bien. Ah non, ça va. Les communautés de cyberharceleurs pro-streamers, là, ne faites jamais ça. Jamais. Jamais en mon nom. Les autres, c'est leur problème, mais pas le mien. Est-ce que ça fait une différence les quelques électeurs perdus sur des millions? Écoute, c'est un point de vue à avoir. Mais bon, quand tu perds une élection à quelques dizaines de milliers de voix près au niveau national, tu dis que c'est quand même dommage. Que toutes les voix comptent en fait. Qu'une voix perdue, c'est une voix de trop. Tu vois, c'est... Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vous laisse militer comme vous voulez. Hein. Je suis pas donneur de leçons. Je me permets un conseil de l'extérieur. Ne vous comportez pas comme des sacs à merde. Ça aidera les gens à éventuellement rejoindre vos opinions. Merci Nescafé pour ton resub. Bonsoir. Les questions au gouvernement reprennent quand? Le 26 septembre 2023 après Jésus-Christ. Ce sera le retour des QAG. Et j'espère pouvoir vous les streamer. On est en train de voir. La question c'est, est-ce que les hard tweetos convainquent des gens? C'est une très bonne question. Oh putain, vous avez vu, il y a un reflet de soleil dans mon visage. Ah, qu'est-ce que c'est que ce streamer en carton qui laisse les volets ouverts? Ah non! Ah non, le soleil c'est nul. Va-t'en. Bon. Non, qu'est-ce que je disais? Oui, alors faut-il militer sur Twitter? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Par exemple, il y a un mec qui a gagné une élection qui s'appelle Joe Biden. Joe Biden, quand il a commencé sa campagne présidentielle aux États-Unis, la règle numéro 1 de sa stratégie numérique, je vous jure que c'est une histoire vraie, hein, il a dit on éteint Twitter. On éteint Twitter. On arrête de parler sur Twitter, de lire Twitter. De s'intéresser à Twitter, on fait une campagne présidentielle numérique, pas sur Twitter. On se casse. Bon, alors est-ce que ça a suffi? J'en sais rien. Le fait est qu'il a été élu. Ça peut être une stratégie intéressante. Yo, mon rêve, j'ai une question sur l'actualité. Est-ce que tu crois que la polémique à ELV pourrait les voir reconsidérer un accord avec la France insoumise pour les européennes, car le rapport de force a un peu changé de question, est-ce qu'ils devraient, est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas de quelle polémique tu parles, parce que si tu parles de la polémique Made in, bah, il y a la même polémique chez les insoumis, donc en fait ça ne change pas grand-chose dans le rapport. Honnêtement, après 3 jours au sein d'Europe Écologie Les Verts, là, les rencontrer, discuter avec eux, il n'y a pas un monde où ils font une alliance avec LFI. On va être assez clair. Il y aura pas de liste unique de la gauche aux élections européennes. Ça, moi, pa pareil. Tu vois, ça, le débat en interne pour les écolos, je l'ai senti assez tranché. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas et parce qu'ils n'y croient pas. Voilà. L'un expliquant l'autre. 50 subs! Incroyable!
Combien?
50 subs à nouveau!
Combien?
Merci SDF, merci beaucoup! Mais c'est beaucoup trop généreux!
Coffre, coffre, coffre.
50 subs! Ah mon Dieu! Dieu, c'est trop généreux, merci beaucoup pour les 50 subs. J'ai du mal à comprendre, ils ont failli gagner les législatives grâce à l'Union, mais ils n'y croient pas. Non, et notamment... Alors bon, si cette question vous intéresse, je vous invite à regarder Baxit au cours de l'année 2023-2024, parce que je vous jure qu'on va en parler. Je vous invite à re-regarder les anciennes émissions de Backseat qu'on a faites en mai et juin dernier, puisqu'on en a beaucoup parlé avec nos invités politiques. On a reçu Manon Aubry, on a reçu Marine Tondelier, qui sont venues en parler de ça sur le plateau. Donc si vous voulez vous faire des rediffs de Backseat, profitez-en, elles expliqueront mieux que moi les termes du débat. Mais pour te la faire courte, les écolos font la différence entre les élections législatives et les élections européennes. Les élections législatives sont des élections à scrutin à une uninominal majoritaire à 2 tours par circonscription. Les élections européennes sont des élections au scrutin proportionnel à un seul tour. Cette simple différence justifie, selon les écolos, le fait qu'il n'y a pas besoin de faire alliance dans le deuxième cas, alors que dans le premier, c'est utile. Première raison. Deuxième raison, les écologistes. Europe Écologie Les Verts en particulier est un parti qui croit énormément à l'Europe et même plutôt fédéraliste. Les insoumis, historiquement, ont une culture de la contestation de l'Union européenne et de son néolibéralisme. Il y a un désaccord idéologique et de perception de l'Union européenne, même si ils ont mis de l'eau dans leur vin tous les deux, parce que la France insoumise a progressé dans son rapport à l'Europe depuis 10 ans. Et les écolos aussi ont progressé. Ils se sont même mis d'accord dans le cadre de l'accord de la NUPES en juin dernier. Il y a moins de désaccords que par le passé. Mais une partie des écologistes continue à trouver que le désaccord reste trop important. Troisième raison, les écologistes font des bons scores aux élections européennes. Les insoumis font des mauvais scores aux élections européennes. Les écolos ne voient pas l'intérêt de s'allier avec la France insoumise. Ils pensent qu'ils vont plus y perdre qu'y gagner. C'est un point de vue. Je le défends pas, je vous explique comment les écolos voient les choses. Donc, pour ces trois raisons, les écolos ne souhaitent pas faire de liste unique avec les insoumis. Et les insoumis, de leur côté, ils ont d'autres arguments, un autre point de vue, et eux, ils y croient plus fort et ils souhaitent l'union pour d'autres raisons. Voilà. Point de vue LFI maintenant. La France insoumise souhaite faire une union aux élections européennes pour plusieurs raisons. D'une part, pour prolonger l'union de la NUPES, qui a déjà été victorieuse effectivement en juin dernier, en juin 2022, enfin vous avez compris, aux élections législatives. La France insoumise souhaite répondre à la demande des sympathisants et des électeurs de gauche qui souhaitent l'union. Et ça, c'est vrai, on le voit dans les sondages. Les électeurs de gauche souhaitent l'union. En tout cas, ils souhaitent voir les partis unis plutôt que les partis divisés. Troisième raison, les insoumis font du scrutin européen un référendum national pour ou contre Emmanuel Macron, ils veulent que la liste unie à gauche arrive en tête devant les macronistes et devant le Rassemblement national. Et ils pensent qu'en ayant une liste unique, ils y arriveront davantage que s'ils y vont séparés, que s'ils y vont en additionnant les voix de tous les camps de la gauche. Voilà, pour vous la faire assez courte, les trois arguments avancés par les insoumis. En gros, je veux bien faire une liste commune avec toi seulement si je vais perdre. Si je peux gagner, je veux pas. Non. Non. Et les sénatoriales, c'est quoi le mode de scrutin uninominal ou proportionnel? Ça dépend des départements. Mais dans tous les cas, les sénatoriales, c'est une élection très particulière parce que c'est la seule élection dont on connaît l'identité des électeurs avant l'élection et dont on connaît leur étiquette politique et donc dont on peut prévoir les résultats à l'avance. Les sénatoriales, en fait, tu peux faire des calculs en sachant par avance quels vont être les résultats de l'élection. C'est un peu particulier. Bah si. Si, si, exactement. Mais non, c'est pas ça. Non mais attends, ou alors j'ai pas compris ta phrase. Je veux bien faire une liste commune avec toi seulement si je vais perdre. Si je peux gagner, je veux pas. Mais non, c'est l'inverse. Je veux bien faire une liste commune avec toi seulement si je vais gagner. Avec toi. Si les écolos avaient un intérêt à faire une liste unique avec les insoumis, ils le feraient. Bah, la preuve, ils l'ont fait pendant la NUPES. Les écolos avaient intérêt. Si je m'apprête à perdre. Ah, si je m'apprête à perdre. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, dans ce cas-là, on est d'accord. Oui, oui. Mais c'est ça, si je suis dos au mur et que j'ai pas d'autre choix que de faire une liste, que de faire une liste unique ou que de faire un accord électoral parce que ça va me garantir de survivre, on fait un accord électoral. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la NUPES, hein. Je vous rappelle que la NUPES, je rappelle encore une fois et je le rappellerai toujours, la NUPES, ce n'est pas un généreux cadeau qu'a fait la France insoumise aux écolos, aux communistes et aux socialistes. Et ce n'est pas non plus un généreux cadeau qu'ont fait les communistes, les écologistes et les socialistes à la France insoumise. Non, la NUPES, c'est un accord entre adultes qui voient très bien ce qui va se passer et qui ont tous le même intérêt à y aller ensemble. Point barre. Je vous rappelle, puisque vous avez suivi Baxit, que deux semaines avant la NUPES, je recevais sur le plateau de Baxit un haut responsable de la France Insoumise, qui s'appelait Adrien Quatennens, et qui est venu nous expliquer sur le plateau de Baxit que jamais, jamais, jamais il y aurait d'accord avec les socialistes. Plutôt crever. Deux semaines plus tard, il y avait un accord avec les socialistes. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il aime les socialistes du jour au lendemain? Non. La différence entre les deux, c'est qu'il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a eu le second tour de l'élection présidentielle, pardon, et qu'il y avait les législatives qui arrivaient et que tout le monde s'est assis autour de la table en disant « Ok, si on y va séparés, on est tous morts, sans exception, sans exception. Si on y va ensemble, on a une chance de gagner. Donc on va y aller ensemble. » La NUPES, c'est ça. C'est contraint et forcé par les événements que la gauche s'est dit « Bon, venez, on se met ensemble, ça va nous permettre à tous de sauver les meubles. » Voire potentiellement de gagner l'élection. Tu connais Demon Slayer? Ouais, mais ça, je vois pas le rapport avec la je vois pas le rapport avec la choucroute. La gauche, le truc mort, obligé de faire des alliances à la con pour exister, alliances qui explosent instant. Ouais, ça fait deux siècles que c'est comme ça. Je sais pas si tu te sens très malin avec ton opinion, mais ça fait deux siècles qu'elle est juste, donc ouais, ouais. Elle risque d'être juste encore pendant un bout de temps. Oui, oui, la gauche française, quand elle est pas unie, elle perd. C'est, alors ça, ça c'est... c'est vrai. Et comme Horizon, Modem, Renaissance, la fameuse gauche. Alors ça c'est toi qui le dis, hein, c'est tes propos, c'est pas les miens. Mais Modem, Renaissance, Horizon, pareil. C'est une alliance rationnel, plus que passionnel. En 81, la gauche n'était pas unie, elle a gagné. C'est méchant. C'est méchant pour Mitterrand de dire ça. Ça plairait pas à Jean-Luc, hein, ce que tu viens d'écrire. Tu veux dire l'Alliance Horizon Renaissance? Ouais, par exemple. Mais Modem aussi, hein. C'est comme les mariages aristo médiévaux, c'est pas des mariages d'amour. Parfois il y a de l'amour et parfois il y a de la raison. Elle n'était pas unie en 2012 non plus. Elle n'était pas unie en 2012 non plus, hein, la gauche. Oui, t'as raison, elle a gagné en 2012, elle n'était pas unie. Est-ce que tu penses que la NUPES peut résister à des européennes sans union? Écoute, de ce que j'ai entendu et de ce que je vois, j'ai l'impression que oui, la NUPES peut survivre à une absence d'union européenne, que c'est pas insurmontable, que c'est pas une division insurmontable. Compte tenu de l'évolution de ce quinquennat d'Emmanuel Macron, de cette première année, des 49-3, etc., je pense que la NUPES va continuer à exister en France, qu'elle va pas crever juste parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un scrutin particulier. Mais que ça enfonce un coin dans l'alliance assez clairement, ouais. Merci Château Lardon. Mais je pense qu'ils vont pas mourir du jour au lendemain. Que répondre à mes potes dépolitisés qu'ils me disent non mais le clivage droite-gauche n'existe plus, ça veut plus rien dire, please. Qu'ils sont de droite. Alors, si tu veux que tes potes ne soient pas de gauche, tu peux leur répondre bah vous êtes de droite, bande de connards. Ça fera de toi un sac à merde, et ça fera de ces jeunes probablement des jeunes qui auront une très mauvaise opinion de la gauche. Par ta faute, mais ça c'est ton problème. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Tu peux leur répondre, écoute, c'est une manière de voir les choses. Il y a des gens qui effectivement défendent l'idée que la gauche et la droite n'existent plus. Emmanuel Macron défend cette idée-là. En tout cas, il l'a défendue en 2017. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais il l'a défendue. Il existe des gens pour qui le clivage gauche-droite continue à exister. Est-ce qu'il y a des gens qui ont raison, est-ce qu'il y a des gens qui ont tort? Non, personne n'a raison, personne n'a tort, ce sont des conventions, la droite et la gauche, donc on peut avoir un point de vue sur le sujet. Et tous les points de vue, là, pour le coup, se valent. T'as le droit de pas être d'accord avec l'idée, machin. Donc si tes potes te disent le clivage gauche-droite n'existe plus, tu leur réponds, bah il y a plein de gens pour qui ça existe encore. Voilà. Et si ça a du sens pour eux, bah c'est que ça doit en avoir un petit peu, à minima pour eux. Et toi, qu'en penses-tu? Ben, j'en pose exactement ça, hein, que la droite et la gauche est une grille d'analyse qui est encore utilisée par beaucoup d'électeurs. Dès lors, moi je suis personne pour prononcer la mort du clivage gauche-droite. Je suis qui, moi, pour dire que ça existe ou ça n'existe pas? Il n'y a pas de vérité absolue, hein, sur le sujet. Merci, Sowen. Après, les gens mettent des. Je vous rappelle encore une fois que droite et gauche sont des conventions. Et que dans des conventions, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'on met dedans. Hein. Donc il y a des gens qui ont leur propre définition de ce qu'est la droite, de ce qu'est la gauche, et surtout de ce que n'est pas la droite et de ce que n'est pas la gauche, et tout le monde n'est pas toujours d'accord éternellement là-dessus. Voilà. Il y a des gens qui considèrent que LFI c'est déjà trop à droite, et que la vraie gauche elle est révolutionnaire. Il y a des gens qui considèrent que Marine Le Pen est de gauche, par exemple Éric Zemmour. Écoute, c'est son point de vue, hein. Moi j'ai pas la même lecture que lui, bon. Voilà, hein. Je débarque, ça parle de Ségolène. Ah bah tiens, très bonne raison. Très bonne question, Ségolène est-elle de gauche? Voilà, bon ça, on peut y partir pendant 2 ans sur un débat là-dessus. Personne n'aura raison, personne n'aura tort. Chacun aura un point de vue. Marine Le Pen, hormis l'immigration, c'est quand même populiste. Marine Le Pen est effectivement l'héritière de Jean-Marie Le Pen qui, pour reprendre les mots de je sais plus quel chercheur, est effectivement le chantre du national-populisme français, qui est un particularisme de l'extrême droite. Marine Le Pen est effectivement un populisme, mais c'est pas la seule. Le populisme n'est pas l'apanage de Marine Le Pen, on en a déjà parlé. Il y a du populisme de gauche, qui a été revendiqué un temps par Jean-Luc Mélenchon, et qui continue à l'être par une partie de ses proches. Il y a un populisme du centre qui a été un petit peu revendiqué par Emmanuel Macron en 2016-2017, mais bon. En même temps, est-ce que tu peux être populiste après avoir gagné une élection? C'est un peu particulier. Il y a plusieurs droites, nationalistes, libérales, etc. Et plusieurs gauches, socialistes, écologistes, insoumises, etc. C'est pas vraiment linéaire. Absolument. Absolument. Et encore une fois, droite et gauche sont des conventions sur lesquelles on peut être d'accord ou pas d'accord, et on peut ne pas tous avoir les mêmes lectures du truc, on peut tous ne pas mettre les mêmes éléments dans les mêmes parties. Elle fait croire qu'elle est populiste, mais elle est pro-bourgeoisie en fait. Bon, tu sais, il y a des gens qui disparaissent de Jean-Luc, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont raison, mais bon. Jean Massier, es-tu gentil? J'essaye, j'essaye. Comment est-ce que tu arrives à effectuer une distance neutralité avec tes propres sensibilités politiques dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris pendant tes études? Perso, j'aurais trop de mal. Non, j'ai pas appris pendant mes études. Non, non, mais comment je fais? J'en sais rien. Je sais pas. Déjà, est-ce que j'y arrive? J'en sais rien. Ça se trouve, j'y arrive pas très bien. Je sais pas, non, je sais pas, je vous parle, j'essaie d'avoir une discussion construite, intéressante, et j'estime que mes opinions, on a le droit de s'en branler, hein, c'est pas très important, c'est pas très intéressant. J'estime avoir mieux à vous offrir que mes opinions politiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Jean Massier est une IA. Ouais, mais alors hyper mal codé, hein. Eh, Defend Intelligence va falloir mieux bosser que ça, hein. T'as vu le résultat là? Pas ouf, l'IA. Selon toi, est-ce qu'on peut avoir des vérités absolues en politique ou c'est une contradictoire dans les termes? Non, non, on peut avoir des vérités politiques. Mais en fait, la politique, encore une fois, de quoi on parle? Si la politique est un champ de rapport de force institutionnel et électoral dans le cadre des démocraties, est-ce qu'il peut y avoir des vérités? Oui, bien sûr qu'il y a des vérités, mais la dynamique d'opposition des idées dans le cadre d'un débat démocratique suppose des différences de point de vue. Si on programme une IA pour parler comme tu le fais, quelle serait ta plus-value? Mais qu'est-ce qui me dit que toi t'es pas une IA là qui a tapé ce message de merde dans un chat sur Twitch? Non, je déconne, c'est pas un message de merde. En vrai, c'est une bonne question. Mais tu comprends ma réponse. Je dis, mais quelle ma plus-value? Bah, j'en sais rien, moi, mais c'est ce que tu dis, c'est valable pour plein de métiers. Eh, si un robot faisait mieux ce que tu fais, tu servirais à quoi? Bah, à rien. 50 subs! Non, mais t'es un ouf!
Combien?
3 fois 50 subs! 50 subs offerts au chat, putain. Merci beaucoup, v'là le bot. Allez, on s'ambiance. Je t'aime trop, et bah moi aussi, SDF, je t'aime beaucoup. Merci hein, pour ces très généreux cadeaux que tu fais au chat en cette rentrée, ça fait super plaisir. Merci à toi, merci à vous tous et à vous tous, à toi ah putain! Merci à vous toutes et à vous tous pour vos resubs, merci pour votre soutien. On va repartir bientôt pour une nouvelle année sur cette chaîne et j'ai des annonces à vous faire en septembre qui vont être plutôt très très cool. Et pas que des annonces, hein, aussi des émissions en septembre, dès le mois de septembre qui vont être chouettes. J'en profite du coup pour remercier également Sowen, Druct, Mister Dante, Château Lardon pour vos subs, Boomer d'Armor. Merci à vous. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ces abonnements offerts? Désolé, je suis un peu nouvelle sur Twitch. Tu peux pas choisir parce que c'est aléatoire. En revanche, si tu veux avoir un abonnement, tu peux te l'offrir à toi-même, c'est possible. Avec une simple carte bleue, tu peux t'offrir un abonnement à toi-même. Et je trouve que c'est un très beau cadeau à s'offrir à soi-même, un abonnement. N'hésitez pas à vous faire des petits plaisirs comme ça. C'est important. Prenez soin de vous. Offrez-vous des trucs. Offrez-vous un abonnement à la chaîne Twitch de Jean Massier. C'est bon pour la santé mentale. C'est bon pour le corps. C'est bon pour la démocratie. Merci Pliny Minor. Merci Duncan, pardon. Merci Popozom pour vos resubs également. Bonjour, j'essaie de comprendre un peu plus le monde de la politique française aujourd'hui et j'aimerais savoir si vous aviez des médias intéressants à me recommander qui pourraient m'éclairer. Je ne sais pas si je vais réussir à te recommander un média en particulier. Les médias participent du débat public qui est une construction permanente du paysage politique français. Donc, si tu veux t'intéresser à la politique et essayer de te faire une opinion, n'hésite pas à suivre les, à lire, à suivre les médias de référence. Les quotidiens nationaux français, par exemple, c'est un bon début, avec chacun leur sensibilité et leur ligne éditoriale. Voilà. Après, je connais une excellente chaîne Twitch à laquelle je pourrais me permettre de te suggérer de t'abonner, mais je le ferai pas parce que ça ferait vraiment, alors vraiment forceur. Merci Tilsit pour ton Prime. Merci Toby. Le Monde, c'est situé où? Le Monde, c'est un journal que tu as le droit de situer où tu veux. Il s'en branle un peu de là où tu les situes. Le Monde est, par convention, plutôt situé au centre-gauche. Une fois que j'ai dit ça, tu as le droit de pas être d'accord avec ce positionnement. C'est ton problème. Voilà. Merci Redmewan qui, du coup, offre un sub à Miss Morrigan. Miss Morrigan, tu viens, du coup, de ne même pas avoir besoin d'utiliser ta carte bleue. Tu peux la re-ranger dans ton portefeuille. Elle ne te sera pas utile. Tu viens d'avoir un abonnement qui t'a été offert par Redmewan. Merci à toi, Redmewan. Et merci Enexam qui, à son tour, a offert un sub à Eliscal. Merci Abkin pour ton e-sub. Pour ne pas tomber dans le piège que les sujets abordés aujourd'hui seraient exclusifs, je conseille aussi de suivre l'histoire politique depuis l'année 2000 environ. Je suis d'accord avec toi, je ne sais pas pourquoi tu démarres à l'année 2000, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans l'histoire politique. Oui, pour s'intéresser à la politique, essayer d'avoir les idées un peu claires sur les événements depuis la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe est, à mon avis, un truc assez utile. Après, ça peut se faire au fil du temps. Hein. Moi, sur cette chaîne, je lutte contre l'idée selon laquelle. Pour s'intéresser à la politique, il faut avoir fait Sciences Po, il faut avoir un bac plus 5, il faut être énarque, il faut être je sais pas quoi. Non, non, vous avez le droit de vous intéresser à la politique d'un peu loin, vous avez le droit de chercher à avoir une opinion parfois pas très bien construite sur tous les sujets, vous avez le droit d'être en construction de vos opinions. Donc ça peut se faire au fil de l'eau. Commencez pas à lire, à chercher à lire des bouquins de 400 pages pour vous y connaître mieux que les autres. Vous avez le droit aussi de le faire au fil de l'eau tranquillement. J'ai pas eu de réponse à ma question du coup, quelle différence entre ton stream actuel et si je crée là maintenant une IA qui bouffe tous tes streams pour avoir des POV que je mets en ligne? Vraie question de fond, mais crée-le ton stream avec ton IA. Crée-le. Qu'est-ce que je te dise, quelle différence? J'en sais rien, moi c'est. Quelle différence avec ton. Bah si tu fais exactement le même stream avec une IA, bah ce sera exactement. Il y aura aucune différence. Mais ce que tu dis est valable pour tous les streams. Hein. Ou alors, non, c'est même pire, la question que tu poses est valable pour toutes les personnes qui répondent à des questions. Bon. Et vous avez le droit de dire je sais pas quand on vous demande ce que vous pensez de tel ou tel sujet. Ouais, vous avez le droit de dire je sais pas. Ou vous avez le droit de dire je trouve que. Vous avez le droit aussi. Et puis vous avez le droit de plus tout à fait être d'accord avec ce que vous disiez l'année dernière sur le même sujet. Voilà, ça peut bouger. Le prends pas perso, c'est une question sociétale. Mais non, mais je sais pas quoi te répondre à ta question sociétale. Quelle différence entre une IA qui répond à des questions et un humain qui répond à des questions? Je sais pas, c'est une question philo. Je sais pas. Quelle différence? Bah, la différence, c'est que dans un cas, c'est une IA, dans l'autre cas, c'est un humain. Elle va être décevante, cette réponse, hein, mais c'est à peu près tout ce que je vais réussir à t'offrir. J'ai trop fumé, j'imagine. C'est possible. Bon, c'est pas ici qu'on va te juger là-dessus, hein, t'inquiète pas. Sois le bienvenu. Merci Nexam pour ton resub. C'est le premier subprime de ma vie. T'as vu comment on se sent bien après avoir utilisé son subprime? T'as vu comment on se sent bien après s'être abonné à cette chaîne sans payer? Non prime. Ah, non prime. Ah, pardon, t'as sorti ta carte bleue pour la première fois. T'as vu comment on se sent bien après avoir utilisé, non pas un prime vulgaire et gratuit, mais après avoir utilisé sa carte bleue comme un grand garçon? Je suis vraiment un connard. Quel est le politicien, politicienne qui t'a le plus surpris ces derniers temps? C'est une bonne question, ça. Bah, dans des domaines très différents les uns des autres, Ségolène Royal, Elle vient de m'impressionner. Elle vient de me surprendre. Mélenchon vient de me surprendre dans sa réponse à Ségolène Royal. Ça, voilà, ça c'est juste pour parler de la semaine dernière. Après, dans ces dernières années, François Ruffin, je trouve, est un politique très intéressant dans son évolution. Surprenant aussi. Je sais pas, moi. À plein. Merci Totem les Pommes pour ton Prime. Merci Neaven pour ton Prime. Elle a fait quoi, Ségolène? Elle a fait se réinterroger tous les insoumis sur leur rapport à la social-démocratie. J'ai le droit de le dire comme ça? Elle... Disons qu'il y a beaucoup d'insoumis qui, depuis 2 jours à peu près, se disent, bon, après tous les sosdem, il y en a des biens. Tu peux détailler, non, mais je rigole. Ségolène Royal a proposé de conduire une liste unique d'Union de la gauche aux élections européennes en 2024, proposition qu'elle a faite à Valence à l'occasion de l'université d'été de la France Insoumise, et proposition qui a été accueillie avec bienveillance par un certain nombre de responsables de la France Insoumise, en tout cas publiquement, et avec circonspection, pour ne pas dire ricanement, de la part de beaucoup d'autres personnes. Voilà pour vous la faire courte. Salut Masséglia, comment tu vas mon vieux? Elle essaie surtout de choper une place. Ah bah oui, non mais attends, parce que bon, chroniqueuse TPMP, c'est pas un avenir. Hein. Royal qui incarnait quand même la droite du PS, soit tout ce que Mélenchon a toujours détesté. Oui, mais attends, 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 tu vas un peu vite. Mélenchon a mis beaucoup d'eau dans son vin ces dernières années. C'est vrai. Notamment vis-à-vis des socialistes. Elle a jamais dit qu'elle voulait être tête de liste aux européennes. Elle a précisément dit qu'elle voulait être tête de liste aux européennes. Suis désolé, mais à un moment, moi je cite Ségolène Royal là. Elle veut prendre la tête d'une liste aux européennes, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment te le traduire mieux. Elle souhaite, elle propose de prendre la tête d'une liste d'Union de la gauche aux élections européennes. C'est Gollum Royal. Pas bien, pas bien. Honnêtement, je pense qu'elle ira pas très loin avec cette proposition. On va pas se mentir, j'en sais rien, écoutez, je vous dis ça, on est le lundi 28 août, elle a proposé ça il y a 3 jours seulement. Je pense qu'elle ira pas très loin avec cette proposition et que ça va finir par faire chou blanc. Voilà. Pour vous le dire clairement. Le PS n'ira jamais, Glucksmann est trop précieux. Raphaël Glucksmann, malgré ses qualités, n'a pas permis au PS de faire un score incroyable aux dernières élections européennes. Est-ce qu'il est si précieux que ça? J'y suis favorable. Bah tu m'étonnes, Denis, que toi tu y es favorable. Parce que t'as le sens de l'humour aussi un peu. Et tu n'as pas tort, c'est important le sens de l'humour en politique. Il y a un point de vue subjectif de gens. Mais non, c'est pas un point de vue subjectif. Je vous donne pas mon opinion personnelle sur une liste. Non, non, je vous dis, je pressens que ça va pas aller très loin. Je vous dis pas si je suis d'accord ou pas. Ha! Je t'ai bien eu. C'est bon pour la majo. Est-ce que c'est bon pour la majorité? Alors, si tu considères que tout ce qui divise la gauche, si tout ce qui divise l'opposition est bon pour la majorité, alors oui, Ségolène Royal, c'est bon pour la majorité. Après, méfie-toi, parce qu'il y a un monde aussi où Ségolène Royal ou quelqu'un d'autre réussit à faire une liste unitaire qui fait un carton. Tu vois? Est-ce que c'est une grosse figure au Parlement européen, Glucksmann? Oui, Raphaël Glucksmann s'est assez bien démerdé dans son. Raphaël Glucksmann s'est assez bien démerdé dans son mandat aux élections européennes. Il a notamment réussi à marquer pas mal de points auprès de ses collègues européens lorsqu'il a travaillé sur le rapport sur la persécution des Ouïghours par le régime chinois. Raphaël Glucksmann a fait un travail de fond assez intéressant. Ouais. Ouais. C'est une personnalité assez en vue au Parlement européen, ouais. C'est pas le seul, mais il a marqué des points, ouais, c'est vrai. Qui soutient Ségolène aujourd'hui? Depuis 3 jours ou. Est-ce que tu comprends les gens qui changent radicalement de parti suivant l'élection? Je sais pas si ces gens attendent que je les comprenne déjà. Après, je comprends que les personnes ont leurs raisons à eux. Et je vous avais déjà expliqué ça, que là aussi, les trajectoires politiques personnelles des gens sont aussi à regarder au regard de l'idée qu'ils se font de leurs idées. Et parfois, il y a des gens qui changent de parti parce qu'ils estiment que le parti auquel ils appartenaient a changé et ne correspond plus à ce que eux pensent. Tu vois? J'essaye toujours de vous rappeler que, il faut pas voir les trajectoires. Changer de parti n'est pas toujours une trahison, un truc d'opportuniste qui cherche un poste, machin et tout. Non. Quand Jean-Luc Mélenchon quitte le Parti Socialiste en 2008, après plus de 30 ans, il se met en. Enfin, il explique, d'ailleurs lui, qu'il se met en cohérence avec ses idées et qu'il estime que le PS n'est plus ce qu'il était avant et que ça le fait chier et que lui, il voudrait recréer un autre parti qui soit plus mieux. Est-ce qu'il a changé d'avis? Bah, non, il a changé de parti. Voilà. Pareil pour les écolos qui, en 2017, rejoignent Emmanuel Macron. Je pense à Barbara Pompili, à Bruno. Président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, Jean-Vincent Placé, etc. Ce sont des gens qui défendaient l'idée d'une écologie politique au cœur des institutions et qui participent aux majorités de gouvernement. Ils décident de continuer. Donc, ils n'ont pas changé d'opinion, ils participent à une majorité de gouvernement parce qu'ils estiment que c'est là que l'écologie a sa place. Point de vue. Est-ce que eux ont trahi quoi que ce soit? Bah, ils vont vous dire non, j'ai rien trahi, moi, je suis resté là où je suis. Hein. Même Valls, c'est pas opportuniste? Bah, c'est une question de point de vue, tu vois. Alors, déjà, tiens, est-ce que Manuel Valls a obtenu quoi que ce soit? Non. Si, il a obtenu une investiture qu'il a réussi à perdre comme une merde. Mais ça, c'est. Non, en plus, c'est pas vrai, il a été élu. Il a démissionné. Autant pour moi. Si, il a eu un poste de. Il a eu une investiture à. Ivry. Évry. Il a été élu, il a démissionné plus tard. Non, Manuel Valls. Politiquement, Manuel Valls est très proche d'Emmanuel Macron. C'est pas nouveau. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas révolutionnaire. Manuel Valls est proche d'Emmanuel Macron, c'était vrai avant. Quand Macron a été candidat à la présidentielle, Valls, il a dit, bah moi je te suis. Quand on lui a dit, faut voter pour Hamon, il a dit, bah plutôt crever, en fait. Et il a raison de dire ça. Enfin, no offense pour Benoît Hamon, mais en fait, Manuel Valls, c'est l'anti-Hamon, Hamon, c'est l'anti-Valls. Puis à un moment, Manuel Valls, il est cohérent, hein, quand il dit, je suis désolé, moi je vais pas voter Hamon, je vais voter Macron. Il trahit pas grand-chose, hein. Il est même plutôt fidèle à sa position politique. Dussopt qui passe de Hamon à Macron. Dussopt qui passe de Hamon à Macron. Richard Ferrand aussi, qui passe des frondeurs à Macron. Jean-Luc Mélenchon qui passe du PS de Jospin à la France insoumise et au populisme de gauche dans les années 2010. C'est des trajectoires de vie, c'est des trajectoires d'évolution personnelle. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui changent d'opinion, enfin qui changent d'opinion, qui évoluent aussi dans leurs opinions. Valls a quand même trahi le principe de la primaire socialiste. Ah bah surtout, je sais pas pourquoi il s'y est présenté. C'est-à-dire que c'est juste faux de dire que il allait soutenir n'importe quel candidat, quel que soit le candidat qui sortira du chapeau, c'est pas vrai. Celui de la Drôme qui passe du PS direct à Sarko était pas mal aussi. Alors lui, c'était plus surprenant, ouais. C'était Éric Besson. Éric Besson, ouais, il est passé de d'Arnaud Montebourg à Sarko en 48 heures. Robert Hue qui passe du PCF à Macron. Sacrée cascade. Ah, y a eu des backflips, ouais. Le retour de Montebourg possible selon toi? Ça dépend où, comment, dans quelles circonstances, dans quel alignement de plateau. Non, je sais pas, possible, je sais, j'en sais rien, je sais pas. Pierre Laval, il était pas marxiste. Pierre Laval était avocat, notamment de syndicalistes marxistes, dans sa jeunesse. Montebourg, candidat de l'Union de la gauche en 2027, évidemment, n'est-ce pas Jean? Absolument. Après une re-remontada. Cohn-Bendit, la grosse trahison dans un autre genre aussi. Ah non mais attends, si tu fais la différence entre les opinions de jeunesse des gens et leurs opinions quand ils ont 50 berges, oui, bah alors là t'as pas fini de sortir des ronces, hein, je. Méfie-toi, hein, parce que toi aussi, il y a moyen que tu penses pas tout à fait la même chose quand t'auras 50 berges que quand t'en avais 17, hein. Il se peut que tu évolues sur 2-3 sujets. C'est possible. À ne pas exclure. Et oui, on mature. Ah bon, on évolue. Enfin, après, on vit, ça s'appelle vivre. Hein. Ça s'appelle. Oui. Mais moi, pour le coup, je trouve qu'il n'y a absolument rien de mal à évoluer au cours de sa vie, changer. Ça veut pas dire que ce qu'on pensait quand on était jeune, c'était de la merde. Ça veut pas dire que. Enfin, tu vois, voilà, les gens. Aïe, putain! Je me suis fait mal. Ça veut pas dire que ce que. Enfin, bon, voilà, t'as le droit de changer d'avis sans que ton avis d'avant soit un mauvais avis, tu vois. C'est juste que contextuellement, les choses ont bougé. On mûrit. Ouais, mais j'aime pas trop cette idée. J'aime pas trop cette idée que on a plus raison dans ses opinions quand on est plus âgé que quand on est plus jeune. Tu vois, c'est un truc qui m'emmerde un peu comme opinion. Ça me saoule. Je. Non. On évolue avec son temps, on change en fonction du contexte, on voit les choses évoluer. Évidemment qu'on gagne de l'expérience, mais ça change pas grand-chose, tu vois. Mûrir pour devenir un gros réac. Ce que toi, tu appelles un gros réac, maintenant. Méfie-toi de ce que tu penseras quand tu auras 50 ans. Quand tu auras de l'argent. Ah là là, est-ce que le patrimoine fait évoluer l'opinion? Est-ce qu'à lui tout seul, il est un moteur suffisant? Normalement, plus on gagne d'expérience, plus on level up, et donc plus on gagne en intelligence, sauf si on a tous, sauf si on a tout mis en force. T'es con. Et si t'as réussi à looter une armure légendaire, tu gagnes aussi en résistance. Se faire traiter de réac par un gamin woke. Ah, ça commence! Ah là là, commencez pas, hein. Alors, vraiment, les règlements de compte entre petit con et vieux schnock, c'est pas sur le chat de ma chaîne que vous allez finir le débat, On vit dans une galette saucisse. C'est bon, les galettes saucisses, en plus, putain. Ah ouais, tiens, les journées d'été des écolos. Il y avait un débat pour savoir faut-il autoriser la consommation de viande sur le site des... Quand je vous dis que les écolos sont pas tous les mêmes. Il y a eu un vote avant les journées d'été des écolos, au cours duquel les gens qui ont voté ont décidé qu'il n'y aurait pas de viande sur le, à bouffer sur le site des écolos. Voilà. Donc effectivement, je vous le confirme, il n'y avait pas de viande à bouffer. Mais qu'est-ce qui se passe si des militants décident de rapporter un petit sauciflard? Est-ce qu'ils ont le droit de le manger? Eh ben, j'ai pu voir en live qu'effectivement, il y a des militants de je sais pas quel département qui sont venus avec un petit saucisson là, qu'on fait un petit apéro sur une petite table avec du papier crépon là. Et que d'autres militants à côté, bah, ils grognaient un peu. En disant, ils font chier, on avait dit, ouais, machin. Voilà. Ça s'appelle la vie interne d'un parti politique. Toujours pareil. Toujours pareil. C'est pour ça que je suis pas venu aux journées ELV. Bah t'es con, t'aurais pu en bouffer du sauciflard. Il avait l'air bon en plus. En vrai, le samedi, je me suis barré des journées d'été des écolos pour aller bouffer un burger tranquillement. Mais chut, leur dites pas. Il y a un moment, le boulgour, ça va, quoi. Je suis méchant, en plus, c'était vachement bon. C'était vachement bon, la bouffe des journées d'été des écolos. Je suis méchant. Traître. Ah non, mais moi, je traître rien du tout. Moi, j'ai rien trahi du tout. Moi, je suis pas adhérent des écolos, hein. Je suis invité. Bon, bah, je me plie aux coutumes locales. Voilà, donc je bouffe des légumes. Qu'est-ce qui m'interdit? Quelle promesse j'ai faite à qui m'interdit d'aller me taper un petit burger qui va bien, cuisson saignante, sur mon temps perso? Ça va, la police de la santé, là? Elle est wokiste. C'était bien la viewing party de Drag Race chez les écolos. Mec, c'était le meilleur moment des journées d'été des écolos. À mourir de rire. Genre, il y a un moment, il y a des jeunes écolos qui viennent me voir et qui m'ont dit, ouais, Jean, ça nous ferait super plaisir si ce soir tu voulais bien regarder Drag Race avec nous. C'était le soir de la finale de Drag Race, le vendredi. Du coup, je leur dis, ah bah ouais, avec plaisir, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai pas beaucoup suivi Drag Race, mais j'ai un peu vu cet été et je trouvais ça cool et ça m'a plu et j'avais mon favori qui était Kayona, évidemment. Et donc du coup j'étais bah ouais carrément on fait ça où? On se met dans un bar au Havre, vous avez déjà un endroit et tout? Puis là les jeunes ils me regardent, ils font ah non, c'est ici. Je leur dis comment ça ici sur l'université était là? Je leur dis bah ils me disent bah ouais c'est ici. Je leur dis d'accord mais où, dans une salle? Ils me disent ah non, c'est en plénière. Je lui dis non mais vous déconnez ou quoi? Tu veux dire qu'en plénière, à la fin là ce soir, sur les écrans de la plénière, on va foutre Drag Race? Ils m'ont dit bah ouais carrément. C'est une putain de bonne idée. Et du coup, le soir, je vous jure que c'est vrai, il y a eu une table ronde avec les partenaires de la NUPES pour s'engueuler sur les européennes machin. Donc ça a bien parlé politique là, enfin bref, avec des députés et tout. Et dès la fin de la table ronde, tac, sur les écrans, on a foutu Drag Race. Et là, j'ai passé la meilleure Drag Race de ma vie. 300-400 militants écolos, un peu bourrés. Et putain, c'était trop marrant. On rigolait trop. Clairement, tout le monde était pour Kayona, moi le premier. Donc autant dire qu'on a hurlé très très fort au moment où Kayona a gagné. Et en vrai, c'était trop bien. Franchement, c'était trop trop bien. Regardez Drag Race avec plus de 300 personnes dans une salle. Franchement, meilleur setup. meilleur setup. Pareil pour le karaoké. Alors le karaoké, putain! Sarah Forever était exceptionnelle. Hein. Bravo Sarah Forever. Très très belle place en finale, tout à fait méritée. Mais Kayona, quoi. Le samedi soir, il y avait le karaoké. Avant, il y avait le quiz. Il y avait le quiz des écolos. Mais c'était que des questions internes. J'étais très mauvais sur le quiz. Il y avait que des questions internes au parti et tout. Moi, j'en savais rien. Donc, du coup, j'ai perdu le quiz. Il y avait à gagner des goodies un peu nazes qui restaient au siège du parti et ça faisait marrer tout le monde. Et après le quiz, il y avait le karaoké. Et le karaoké, il fallait s'inscrire et tout machin. Et c'est des militants écolos qui sont venus m'alpaguer en me disant, Jean, on t'a inscrit au karaoké. Mais on vient chanter avec toi. J'ai fait non, vous faites chier, j'ai pas envie de chanter. Si, 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 on va chanter Mylène Farmer, est-ce que ça te va? J'ai fait bon, ok, Mylène Farmer, je veux bien. Donc, du coup, on a chanté Mylène Farmer. Du coup, il y a Marine Tondelier qui m'a vu, qui a fait vas-y, viens, je viens sur scène chanter avec vous. Du coup, on a chanté Mylène Farmer. Et après, plus tard dans la soirée, il y a Marine Tondelier qui m'a dit attends, après, je mets. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit on chante Trio, l'hymne de nos campagnes, avec la commission ruralité d'Europe Écologie Les Verts. Je lui ai dit, t'es sérieuse? Il y a une commission ruralité chez ELV et ils vont chanter l'hymne de nos campagnes. Elle m'a dit, ouais, vas-y, je suis chaud, je viens avec vous. J'ai trouvé ça trop marrant, j'ai fait, vas-y. Bon, j'étais arraché, vous l'aurez compris. Et du coup, je me suis retrouvé sur scène, bras dessus, bras dessous avec Marine Tondelier, en train de chanter l'hymne de nos campagnes. Avec des militants qui criaient Baxit, Baxit. Et bon, là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Est-ce que c'est vraiment mon rôle que de chanter avec une chef de parti à un karaoké? Vas-y, bats les couilles. Vas-y, bats les couilles. Les écolos, c'est toujours plus. Non, mais les écolos, beaucoup trop drôle. Du coup, ouais, du coup, c'est la. Donc, la commission ruralité a changé l'hymne de nos campagnes. Enfin, la commission ruralité, ça s'est transformé en Jean-Massier Bauré et la commission ruralité. Après, il y a eu les jeunes écolos qui ont chanté en bande organisée. Après, il y a eu Michel Sardou. Des militants qui se sont dit, oh, si, viens, on met Sardou, c'est marrant. Et Marine Tondelier qui disait, mais non, mais ça va pas ou quoi? Vous m'avez fait chier tout l'été avec Médine, et là, vous allez danser sur du Sardou, vous êtes sérieux? Et les militants qui ont fait, vas-y, on s'en bat les couilles, on met Sardou. Et du coup, tout le monde a dansé sur Sardou. Tu vois, preuve que Europe Écologie Les Verts, c'est grand. Tout le monde est. Il y a plein de gens différents. Donc, du coup, ça a gueulé sur du Sardou. Marine Tondelier qui était outrée, c'était trop marrant. Et puis le reste, voilà, c'était un karaoké méga bonne ambiance avec des militants trop sympas et un peu bourrés, quoi. Est-ce que tu chanteras aussi chez les Sosdem et chez LFI? Mais tu crois que je l'ai jamais fait? Chanter complètement arraché avec les LFI. J'ai fait mieux, j'ai fait du Just Dance avec les LFI. Voilà. Et les Sosdem, bah, je sais pas ce que t'appelles les Sosdem, toi. Mais j'ai déjà, mais bien sûr, j'ai déjà chanté, j'ai déjà fait la teuf avec des. De toute façon, moi, tu sais, quand il y a de l'alcool et de la politique, je suis jamais très loin. Hein. Sosdem égale PS. Mais attends, maintenant que c'est Golden Royal. J'arrête, j'arrête. J'arrête, j'arrête, ça va, c'est bon, ça va. C'est bon. Stop le trolling. Voilà, j'arrête. Chanter bourré avec les gens, c'est être ni de droite, ni gauche, ni droite, c'est être humain. Exactement. Bon, alors du coup, évidemment, il y a une vidéo de moi qui chante du Mylène Farmer. Qui s'est retrouvé sur Twitter, ça a énervé l'extrême droite, mais d'une puissance. Il n'y a rien de mieux pour énerver l'extrême droite que de montrer des gens heureux qui chantent une chanson queer avec des sourires sur les visages. Ça les rend marteaux. L'idée qu'on puisse être heureux dans la diversité, avec le plaisir d'être ensemble, etc., que les gens fassent la fête, c'est pour ça que la Gay Pride les a toujours rendus fous. Quand tout ce que t'as à offrir au monde, c'est de l'amour, les gens qui n'ont que la haine dans le cœur, ça les fait péter un plomb. Et c'est un vrai bonheur, du coup, de leur faire péter un plomb. Faut leur dire de regarder Drag Race au FN, mais je suis sûr que ça leur ferait du bien en plus. Principale raison d'être à la Gay Pride. Être heureux. Être heureux. Être heureux dans la solidarité. Et à rien de mieux. Enfin, faire péter un plomb l'extrême droite. C'est comme pour ceux qui s'en souviennent au moment de la manif pour tous et tout, il y avait des kiss-in qui étaient organisés. Les kiss-in, c'était c'était pas des sit-in. Un sit-in, tu viens et tu t'assois pour montrer politiquement quelque chose. Un kiss-in, c'était les gens, ils venaient sur un endroit, ils s'embrassaient. Offrir de l'amour aux homophobes. Les homophobes, ça les rendait marteaux. Parce que tu peux rien répondre à ça. Y a rien à répondre à des gens amoureux qui s'embrassent. Tu dis... Voilà, bah là c'est pareil. Chanter Mylène Farmer. Tant que ça fera chier des gens, je chanterai Mylène Farmer. Tous les homophobes, tous les... Ah mais fou, alors là. J'ai étudié à nouveau la période de la République de Weimar. Très perturbant de voir l'extrême droite suivre les mêmes réflexes de l'époque.
Ouais.
C'est Nicolas Patin notamment qui a écrit un... qui a fait un travail passionnant sur la République de Weimar. Tu parles de la fameuse fréquence sombre.
C'est ça.
Donc bref, c'était un très bel événement, ces rencontres, ces journées d'été des écolos. J'ai pas entendu Nicolas comment. Nicolas Patin. Nicolas Patin est un historien, professeur d'histoire à l'université de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait partie de la nouvelle génération des chercheurs sur la période de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la première moitié du XXe siècle, avec Johan Chapoutot, Christian Ingrao. Nicolas Patin a notamment fait tout un travail sur. Alors je l'ai entendu parler, il a écrit des bouquins sur la République de Weimar, sur les dynamiques électorales des nazis pendant les élections des années 20. Donc voilà, il fait partie de la bande à Chapoutot et à Ingrao, méga sûr. Et Nicolas Patin est absolument fascinant. Ouais. Donc si vous avez l'occasion de lire un bouquin de Nicolas Patin, foncez, mangez-en, c'est bon pour la santé. Et ça vaut aussi pour Ingrao et Chapoutot. Merci Colt. Merci Phoenixos pour ton abonnement. Merci Antoul également. Merci The Sarrazin. Merci Masso. Merci Catcode. Merci Zine. Merci Rally 50. Merci Patou le Fou. Merci Lupaco. Merci Le Flot de l'Histoire, ça fait plaisir. Merci XRT Ben. Merci Senec. Merci Gijin. Merci à vous pour vos resubs. Pardon de ne pas vous avoir remercié plus tôt, désolé. Longue vie à ton stream, Jean, mais merci à toi, merci pour votre soutien. Je suis content de vous retrouver. Alors, je vous l'ai dit, c'est pas encore ma rentrée. Hein. Là, je suis plutôt en mode chill. Je suis sur une fin d'été, j'ai encore beaucoup de boulot cette semaine. Ma vraie rentrée en stream, à mon avis, ce sera plutôt la semaine prochaine. Bon, je vais faire des streams cette semaine, plutôt comme celui-là, c'est-à-dire des streams un peu chill, on papote, c'est cool. Peut-être un peu de gaming, peut-être un peu de Flight Simulator, on verra. Mais la semaine prochaine, on reprend les gros streams avec les annonces. Parce que j'ai des trucs à vous annoncer. À commencer par Backseat à la fête de l'humain. Ça, je l'ai déjà annoncé hier. Backseat, le 15 septembre, en direct de la fête de l'humain. Plus d'informations à venir. Et vous avez un code promo pour pouvoir venir à la fête de l'humain pour un peu moins cher. Vous avez 6€ de réduction sur le pass 3 jours avec le code promo Backseat. Par contre, j'ai pas compris, saison 3, épisode 1 de Backseat, c'est à la fête de l'humain. Y a rien d'autre à comprendre, moi ça me paraît assez straightforward. Le premier épisode de la saison 3 de l'émission Backseat aura lieu à la fête de l'humanité. Non, je sais pas. Ok, j'étais pas sûr. Si, bah voilà, voilà. Si t'avais mal compris, t'avais bien compris. La première émission, je sais que c'est un peu incroyable. Moi, j'étais comme vous quand je l'ai appris. Bon, c'est pas vrai, en fait, j'y travaille depuis des mois, mais... on tombe des nues. On se débouche les oreilles. On se dit, mais ai-je bien lu ce que j'ai lu ? Est-ce que vraiment, la première émission Backseat aura lieu en direct du plus grand événement politique de ce pays, annuel ? La fête de l'humain ? Mais c'est énorme ! Mais vas-y, je viens direct ! Voilà. Il y aura donc bel et bien une saison 3. On va essayer. Vous me connaissez, hein, je suis pas là pour vous survendre des trucs, etc. Je reviendrai vers vous avec des annonces plus précises la semaine prochaine sur Backseat saison 3. On va tout faire pour qu'il y ait une saison 3, et tout faire, ça veut dire aussi que j'aurai besoin de vous. On va en reparler. Financement participatif, tout ça, on va en reparler. Est-ce que tu sais si des politiques ont déjà fait des dons à Backseat? Ah oui, il y en a, ouais. Oui, il y a des politiques qui ont déjà. Il y a déjà des politiques qui ont déjà fait des dons à Backseat, mais bon, qu'est-ce que j'en ai à branler? Enfin, je m'en fous. Ça vaut pas plus, pas moins que vos dons à vous. C'est incroyable quand même, bravo. Je suis très content et je suis surtout très content de ce partenariat avec l'UMA, qui est un très beau journal, et du coup on va en discuter. Enfin, ça va être une chouette émission. Plus d'informations à venir. De toute façon, moi je vous dis préparez-vous, hein, parce que là des annonces je vais vous en faire. Préparez votre agenda, il va y avoir des trucs à dire. Va falloir prendre des rendez-vous, les gars. Est-ce qu'on peut encore y aller en famille tranquillement à la fête de l'UMA? À quel moment t'as pas pu y aller tranquillement en famille à la fête de l'UMA? Parce que ça fait pas loin d'un siècle que tu peux y aller tranquillement en famille à la fête de l'UMA. Merci Guillaume J pour ton resub. Du coup, l'UMA te sponsor, c'est génial. C'est un partenariat. C'est un partenariat entre Backseat et l'humanité. À l'occasion de la fête de l'humanité. Fais juste attention au pickpocket, mais ça c'est partout. Ah bah oui, bah oui, bah oui, une fois qu'on a dit ça, oui, c'est un festival de musique, ouais. Et vous partenérisez quoi? Comment ça, on partenérise quoi? On fait une émission ensemble en direct de la fête de l'UMA. C'est pas mal. Est-ce que tu chanteras à la fête de l'UMA? Ah bah si je suis bourré et qu'on m'y invite, vous êtes pas à l'abri que je prenne le micro à un moment. Hein. Je vous le souhaite pas en vrai, hein. Mais ça peut arriver. Pourquoi ton émission s'appelle Backseat? C'est le chat qui a décidé, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Faut vous en prendre qu'à vous-même. Hein. J'y allais quand j'étais petit, mais mon dernier souvenir à 11 ans, j'avais l'impression qu'il y avait plus de bourrés et de gens qui ne se contrôlaient pas. Écoute, j'en sais rien. Ça dépend de l'endroit de la fête de l'UMA et de l'heure de la journée, sans doute. Je suppose qu'effectivement, à 1h du matin, près de la Seine, l'ambiance est moins familiale qu'à 14h de l'après-midi, à côté de la paella, des camarades communistes, du Sud-Ouest. C'est un festoche, quoi, voilà. Est-ce que la fête de l'UMA n'est pas plus un festival musical que politique? Ah mais c'est les deux, c'est ça qui est bien avec la fête. Bon, on va en parler, on va en parler. On va en parler. On en reparlera. Plus d'annonces à venir plus tard. Je vous donnerai les invités, je vous dirai comment ça va se passer cette émission et tout, mais plus tard. Là, on est en train d'y travailler. J'ai encore eu deux réunions aujourd'hui. J'en ai à nouveau plein cette semaine des réunions, des... Du travail, du travail, du travail, mais c'est que pour vous offrir le meilleur, cette année encore, dès le mois de septembre, pour des émissions trop cool. Et puis j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette chaîne continuera à vous plaire. Et voilà. C'est l'humanité qui paye le backseat. Bah, ils nous mettent à disposition la fête de l'UMA pour faire backseat à la fête de l'UMA, donc ça comprend effectivement la mise à disposition de matériel, etc. Enfin, c'est, on met de l'argent, ils mettent de l'argent, c'est un partenariat quoi, on est ensemble. Tu sais, backseat et l'UMA, c'est comme papa et maman qui, voilà, il y a un moment, bon, l'un dans l'autre, paf, ça fait des chocs à pic. Bon, bah voilà, c'est un partenariat quoi. C'est pas leur backseat, c'est le vôtre. C'est le nôtre. Ensemble, on fait rappelez-vous l'année dernière, pour ceux qui ont raté, on a fait une émission en partenariat avec Libération à l'occasion d'un événement pour les 50 ans du journal Libération. Bah, c'était une émission en partenariat, Backseat Libé, une émission qu'on a faite ensemble, qu'on a construite ensemble, qu'on voilà. Et bah là, ça va être pareil avec l'UMA. C'est trop cool ce partenariat pour la première de la saison 3 de Backseat. Ouais, c'est cool. Je suis très très content. C'est une très belle manière de lancer Backseat, que de commencer par cette belle fête populaire, qu'est la fête de l'humain. Populaire et politique, un moment important, traditionnel aussi, de la vie politique française. C'était top, Libé à la Sorbonne. C'était trop bien avec Bilal Hassani. Je rappelle quand même que Bilal Hassani est venu vous jouer un morceau en exclusivité sur le plateau de Backseat. Un partenariat avec le Figaro. Bah écoute, le Figaro, ils vont fêter leurs 200 ans l'année prochaine, je crois, ou dans 2 ans. Voilà. Si à l'occasion, ils veulent organiser une petite sauterie et que Backseat les intéresse, moi je dis why not pour un partenariat, tu vois. Hop, 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 hop. C'est 1826 la création du Figaro. Ah oui, donc c'est en 2026 qu'on aura les 200 ans du Figaro. Usul ne sera pas invité du coup. Pourquoi il serait pas invité, Usul? Je suis désolé de te décevoir, mais Usul risque de continuer à être invité sur l'émission Backseat. Il y a aussi les 130 ans de la Croix cet été. Cet été, c'était les 130 ans de la Croix? Bon, après, tous les journaux n'ont pas les moyens de s'offrir des partenariats cool avec Backseat, hein. Moi, je suis content de faire des trucs avec la presse écrite. Je suis content du partenariat qu'on a eu avec Libé, j'espère qu'on en refera d'autres. Je suis très content de ce partenariat qu'on a avec l'UMA cette année. Puis advienne que pourra pour la suite, hein. Un projet fou que tu aimerais réaliser? Attends les annonces du mois de septembre. D'ici là, chers amis, je vais mettre fin à ce stream. On va faire un raid. Chez qui on va faire un raid? Chez qui est-ce que vous avez été sage? Chez qui je vous envoie? Ah bah tiens! Vas-y, c'est marrant. On va faire un raid chez Defen Intelligence. Si vous ne connaissez pas Defen Intelligence, c'est un vidéaste, mais surtout un spécialiste en informatique et en nouvelles technologies, qui a développé une intelligence artificielle sur Twitch avec Emmanuel Macron. Donc c'est un faux Emmanuel Macron, c'est une intelligence artificielle qui répond aux questions du chat. Donc, on va faire un raid sur cette chaîne bizarre. Ça vous paraît bizarre parce que vous allez arriver sur une chaîne sur laquelle il y aurait Emmanuel Macron devant vous, mais c'est une intelligence artificielle qui fait parler Macron en lui faisant répondre à votre question. Donc, c'est parti pour le raid qui va bien chez Diffen Intelligence. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir son travail, indépendamment de cette chaîne qui est un peu rigolote, mais qui a aussi mis un petit tour de force, hein. Tac, 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 normalement c'est bon. Non, attends. Ah non, merde, je me suis trompé dans l'orthographe. Hop. Defend Intelligence avec 2 L. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été sur ce stream. On se retrouve demain pour un autre stream. Je sais pas encore à quelle heure. Tranquille, peinard. De toute façon, c'est encore un peu l'été, donc on chill. Profitez bien de cette expérience Twitch intéressante proposée par Defend Intelligence. Posez des questions à Emmanuel Macron si vous voulez. Foutez pas le bordel dans le chat de Defend Intelligence. Comportez-vous, comme on disait tout à l'heure, en gens sympas sur Internet, s'il vous plaît. Surtout quand vous venez de chez moi. On se porte bien. Attention, on se porte bien sur Internet quand on vient de chez moi. Le reste du temps, en civil, vous faites ce que vous voulez. Mais allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.